Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 22 février 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Alors je veux dire que ce soir, c'était le moment ou jamais de lancer ce cri qui est le cri traditionnel de début d'émission. Amis de la Résistance, bonsoir. Parce que là, on a un vrai résistant. Résistant qui a commencé à 18 ans. Monsieur Yves Guéna, qui est ancien député, ancien sénateur, ancien ministre, et juste ancien président du Conseil constitutionnel, puisqu'il y a un an encore, vous étiez, ou un peu plus
Non, deux ans.
Deux ans. Deux ans, vous étiez encore président du Conseil constitutionnel. Et je vous ai invité, parce que cette invitation peut paraître étrange à certains auditeurs qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas à proprement parler un admirateur de l'épopée gaulliste, mais c'est pas pour ça que je vous ai invité, c'est parce que j'ai trouvé que vous aviez écrit, j'ai vu que vous aviez écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de France racontée à mes petits-enfants », qui m'a paru être le modèle de ce qu'il faut faire pour faire aimer l'histoire de France aux petits-enfants. C'est deux tomes, « L'histoire de France racontée à mes petits-enfants, des Gaulois à la Révolution française et de la Révolution française à nos jours ». Et alors je voulais dire d'abord que quand je vous attendais dans le studio, et je m'attendais à voir arriver un notable, disons...
Périgourdin.
Périgourdin, mais surtout...
je le suis. Hein. Yves Guéna était maire de Périgueux pendant 26 ans.
Et je vois arriver un jeune homme, je le dis parce que c'est stupéfiant. Vous avez une jeunesse d'allure et même de visage qui sont... Vous devez boire du sang de bébé, c'est pas possible. Comment vous faites?
Comment je fais? Rien. Je n'ai jamais suivi aucun régime alimentaire. C'est ainsi. No sport. No sport. Je tout de même monter à cheval et jouer au polo.
Alors, vous êtes engagé... dans la résistance, dans les forces françaises libres, à 18 ans. Comment ça s'est passé?
Qu'est-ce qui a déterminé C'est une histoire que je racontais si souvent.
Oui, mais pas moi.
Bah, écoutez, j'étais au bout de la Bretagne et on a appris la demande d'armistice, l'arrivée prochaine des Allemands jusqu'au bout de la Bretagne. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas rester là avec les Allemands. J'étais avec ma mère au bout, dans une maison qu'on avait au bord de la mer, et elle-même n'a pas hésité. Elle m'a dit, tu vas pas rester avec les Boches. Alors, je suis parti le 19. Au matin, et j'ai trouvé un bateau dans lequel j'ai sauté parce qu'il appareillait pour Ouessant, et dans la nuit d'Ouessant Des bateaux partaient pour l'Angleterre. J'ai de nouveau sauté dans un bateau. C'était un chalutier belge. Je suis arrivé en Angleterre. Et voilà, je me suis engagé naturellement dans les forces françaises libres 15 jours après, quand elles ont été créées.
Voilà, ça c'était donc il y a maintenant...
C'est ça, 66 ans.
66 ans. Et c'est étrange parce que hier j'ai assisté au funérailles de Christian de Lamazière. Je ne sais pas si vous voyez qui était Christian de Lamazière, qui est un garçon qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Rêveur Casqué.
Non, je...
Et qui, lui, a eu une aventure, je dirais, symétrique de la vôtre, au contraire, je ne sais pas comment il faut dire, puisque il était jeune journaliste à Paris, dans la presse de droite, la presse de collaboration, et... la presse de collaboration de droite, parce qu'il y a aussi une presse de collaboration de gauche, mon prince de le dire. Et le 18 juin 40, non, le 6 juin 44, quand il a appris le débarquement, il s'est dit, étant donné que j'ai écrit des articles qui ont fait partir des gens, des jeunes gens pour le front de l'Est, la moindre des choses que je puisse faire, c'est d'en faire autant maintenant. Donc lui, vous êtes engagé dans la résistance à 18 ans, le premier jour de la guerre pratiquement, dans les premiers jours de l'arrivée des Allemands, et lui, dans les derniers jours, il s'est engagé dans la division Charlemagne.
Oui, je sais, vraiment, je peux pas accepter la mise en balance des deux. On peut pas porter les armes de l'ennemi. Je rappellerai d'ailleurs que Leclerc, lorsque nous sommes arrivés en Allemagne, en Bavière, ont été faits prisonniers 12 Français qui étaient engagés dans la LVF. Leclerc les a apostrophés en disant, vous n'avez pas honte, vous êtes sous un uniforme allemand. Il y en a un qui a eu la bêtise de lui dire, et vous, mon général, vous êtes sous l'uniforme américain. C'est une armée française quand même. Et Leclerc les a fait fusiller. Ouais. Bon, et je ne verse pas une larme. Excusez-moi.
Je ne comprends pas qu'il s'agisse de verser des armes, mais vous savez...
Vous savez, il y a une règle à guerre. Hein. Un homme ne doit pas porter les armes de l'ennemi et une femme ne doit pas coucher avec l'ennemi.
En tout cas, on peut effectivement se simplifier l'existence en disant des choses comme ça, mais les choses sont en général moins simples parce que il y a un détail que, comme vous connaissez pas Lamazière, vous pouvez pas le connaître, c'est que quand Lamazière a été libéré après avoir fait de la prison, alors qu'il était allé combattre les Russes, qui étaient quand même au moins autant nos ennemis que les Allemands.
Non, mais moi je marche pas, hein. Je le dis tout de suite, je marche pas. Mes camarades des forces françaises libres, qui étaient dans Normandie-Niémen, ont fait guerre au sein de l'armée rouge et contre l'armée allemande. Moi je suis du côté de l'armée rouge.
De Normandie-Niémen.
Ah oui, mais du côté de l'armée rouge.
Quand il est rentré en France, en tout cas, quand il est rentré, il est sorti de prison, il a trouvé du travail et on lui a confié la création de la Kermesse aux Étoiles, dont vous n'ignorez pas quel était le moyen qu'avaient trouvé les anciens de la deuxième DB pour alimenter le fonds de fonctionnement de l'association pour venir en aide aux orphelins, aux veuves.
Ouais. En tous les cas, je ne mets pas la Mazière dans l'histoire de France, je vous dis tout de suite.
Alors voilà. Donc,
ce n'est pas votre SS préféré, comme l'appelait, je crois, Roger Hanin. Vous n'êtes pas trop surpris, Serge, de ce que le président Guéna se défende avec cette fougue d'adolescent.
Non, pas du tout.
J'avais salué ça.
Je suis pas surpris du tout.
Un adolescent qui a beaucoup vécu et un peu réfléchi.
Alors, voilà pourquoi je vous ai demandé de venir. Parce que j'ai lu dans votre livre les lignes suivantes. La France existe depuis deux millénaires, nous avons affronté et surmonté tant d'épreuves, nous avons vécu tant de bouleversements en Europe et dans le monde, tant de changements chez nous, nous avons toujours réussi à nous maintenir et si souvent à nous affirmer de magnifiques façons. La France avec sa longue histoire poursuivra son chemin, la France est, demeure et demeurera cette nation glorieuse que nous aimons, notre patrie. Toute notre histoire démontre que notre puissance relève de la volonté, du courage, de l'esprit de sacrifice des Français. Alors, ma première question... C'est, est-ce que vous croyez vraiment ce que vous écrivez aujourd'hui quand vous écrivez ça? Est-ce que vous
croyez
qu'il y a encore un moyen de s'en sortir?
Je crois vraiment ce que j'écris. J'aurais pas pris la peine d'écrire ce livre, ces deux livres, c'est un effort quand même, si je n'avais pas eu l'intention, à la demande de mon fils aîné d'ailleurs, de transmettre à mes petits-enfants, mes enfants l'ont lu aussi avec intérêt, m'ont dit qu'ils avaient appris des choses, l'idée que je me fais de la France. Je crois en la France. Et j'aime l'histoire de France. Et je me rappelle l'histoire de France telle qu'on l'enseignait lorsque j'étais à l'école primaire, secondaire, avec des livres très illustrés. Je me rappelle Vercingétorix rendant les armes devant César. C'est pas un bon début, je reconnais. Clovis se faisant sacré roi à Reims. Je me rappelle naturellement Philippe Auguste à Bouvines, qu'on retrouve là. Dedans. Je me rappelle Jeanne d'Arc sur son bûcher, François Ier se faisant armer chevalier par Bayard, Henri IV sur son cheval blanc, et on peut aller plus loin sur le cheval blanc en disant Paris, c'est-à-dire la France, vaut bien une messe. Voilà, je suis imprégné de cela. J'aime la France, et je crois que si le moment venu, naturellement, la dernière génération n'est pas passée par là. Au contraire de toutes les générations qui l'ont précédée. Mais tant mieux pour elle et tant mieux pour nous. Si demain, il faut encore faire le accepter de sacrifice suprême pour la France, il vaut mieux présenter l'histoire de France telle qu'elle m'apparaît à moi, c'est-à-dire glorieuse et héroïque.
Néanmoins, car Président, si on... je vous demande pardon, vous comprenez l'objection de Serge de Bekech quand vous voyez par exemple que le dernier livre du général Bigeard est titré « Adieu à ma France ».
Oui, mais alors ce sont ceux qui aiment la France, mais qui doutent de la France en ce moment. Moi, je ne doute pas de la France. Naturellement, beaucoup de choses contre lesquelles il faut réagir. Moi, je ne peux pas accepter qu'on remette en cause quoi que ce soit dans l'histoire de France. Alors, je ne crois pas que le gouvernement actuel et le président de la République aient décidé de ne pas donner d'éclat à la célébration du bicentenaire d'Austerlitz. Bon, je ne pense pas. D'ailleurs, ils l'ont célébré sur la place Vendôme. Mais moi, en tant que président de la Fondation Charles de Gaulle, j'ai fait une célébration d'Austerlitz à Austerlitz. Et je dois dire d'ailleurs que comme je savais que Madame Alliot-Marie serait quelque part en Autriche à ce moment-là, je lui ai demandé de venir le dîner, de présider le dîner qui aurait lieu au château d'Austerlitz le 2 décembre et qu'elle est venue. Et qu'elle a présidé le dîner. Bon. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on ne reconnaisse pas cette victoire extraordinaire, de même que je ne peux pas accepter qu'on mette en cause la colonisation qui était un moment de l'histoire de France.
On va en parler, si vous voulez, parce que
j'ai un chapitre là-dessus. Oui, j'ai un chapitre là-dessus.
Mais quand on entend, par exemple, comme on l'a entendu il y a 15 jours ou 3 semaines, sur les radios les radios de l'État, enfin c'est plus les radios de l'État, on se demande d'ailleurs à qui elles appartiennent ces radios finalement, comme France Inter ou des choses comme ça, répéter sur France Info par exemple pendant une journée entière, tous les journaux, c'est-à-dire tous les quarts d'heure, toutes les 7 minutes, vous savez, le français Moussaoui a comparu devant le tribunal américain. Moi, je suis comme vous, j'ai confiance dans la France, j'aime la France profondément. Et j'aime la France d'une amour charnelle. Je pense qu'il y a chez les Français des ressources extraordinaires. Mais enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire le français Moussaoui? En quoi ce personnage est-il français? D'ailleurs, lui-même a rejeté avec horreur cette dénomination. Donc, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, à la lumière de ce que vous nous citiez, de tous les précédents que vous nous citiez, c'est-à-dire effectivement de Vercingétorix, de Clovis, de Jeanne d'Arc, de tous ces personnages qui ont fait l'histoire de France, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de dire d'un Moussaoui, vous êtes français?
Un auditeur complète la question. Monsieur Guéna pense-t-il qu'aujourd'hui nous sommes en guerre? Y a-t-il des Français qui portent les armes ou couchent avec l'ennemi?
En ce moment, je ne le pense pas. Alors, je connais pas bien l'histoire de Moussaoui. Enfin, j'ai en entendu parler naturellement. Bon, il a été naturalisé français. Bon, sans doute ne se conduit-il pas comme un Français normalement se conduirait. Est-ce que nous sommes en guerre? Non, nous ne sommes pas en guerre. Est-ce qu'il y a des Français qui portent des armes de l'ennemi? Pas beaucoup, me semble-t-il. Je crois pas.
Enfin, moi, en tant que petit-fils de naturalisé, je veux dire que je suis absolument scandalisé qu'on puisse parler d'un terroriste qui lui-même dit « Mais moi, je suis pas français, rien à foutre de la France, je veux pas être français. » Et on parle de lui, le matraquage médiatique fait qu'on nous dit « Français, français ». Alors, bon, chacun fait la radio qu'il veut, après tout, et ça n'a que peu d'importance. Sinon que ça finit par accréditer, enfin, je me demande si ça ne finit pas par accréditer dans l'esprit des Français, justement, l'idée que être français, ça n'a plus aucun sens. Et cela, alors où est-ce qu'on va trouver en eux les ressources?
Écoutez, vous n'est-ce pas, vous adressez aussi non seulement un ancien combattant des forces françaises libres, un ministre du général de Gaulle, mais au président de l'Institut du monde arabe. Bon, et j'ai assumé cette tâche très volontairement et très volontiers, et j'y crois. Parce que je pense que il y a des civilisations qui sont sensiblement différentes. Il est certain que la façon de vivre de la plupart des Arabes ou des musulmans est différente de la façon de vivre de la plupart des Français. Il y a quand même beaucoup de points communs en ce moment.
Le général de Gaulle l'a dit très clairement.
Oui, et nous avons comme mission, et c'est ma mission, c'est de jeter des ponts entre ces civilisations. Alors, c'est pas toujours très facile. Bon, mais nous le faisons, et je crois que c'est tout à fait indispensable. Alors, et nous le faisons vis-à-vis des Arabes à l'extérieur, et nous le faisons aussi vis-à-vis de ceux qui sont installés en France et qui sont à la deuxième génération des beurs. Je dois dire que lorsque, il y a quelque temps, j'ai fait à cet égard des représentations d'artistes originaire du milieu arabe et devenu français maintenant, que j'en ai entendu un qui chantait une chanson quand j'étais au cours préparatoire à l'école de Tizi Ouzou, eh ben écoutez, moi j'ai trouvé que c'était très beau. Et vous avez beaucoup d'exemples d'arabes d'origine arabe, enfin il y en a eu depuis très longtemps d'ailleurs, et qui réussissent dans notre pays et qui ont pris l'ascenseur social, et si l'ascenseur était en panne, comme l'a écrit un, ils ont pris l'escalier. Donc, n'attendez pas de moi que je jette de l'huile sur le feu, s'il y a feu. D'ailleurs, je rentre d'une tournée dans les pays du Golfe, je suis allé en Arabie, dans les États Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis et au Qatar, et partout, j'ai été reçu avec beaucoup d'égards, je dois dire, et notamment par les chefs d'État. J'ai été reçu par le roi d'Arabie, à qui j'ai remis un message de Jacques Chirac.
Monsieur le Président, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme le président Chirac, que les racines chrétiennes de l'Europe ne doivent pas être inscrites dans sa constitution, et même, comme il l'a déclaré à Philippe de Villiers, que nos racines sont autant musulmanes que chrétiennes, ce qui scandalise la majorité des Français, et sans doute totalité de nos auditeurs.
Attendez, moi je suis assez proche de Chirac, et je n'ai pas l'habitude de contester ce qu'il dit. Alors, je vais vous dire mon sentiment. Je ne crois pas que je n'ai pas entendu cela, je ne crois pas que l'Europe ait beaucoup de racines musulmanes. Bon, on a des racines de tout, si vous voulez, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup de racines musulmanes.
En Grèce, en Yougoslavie.
Oui, en Grèce, non, c'est passé.
Dans les Balkans,
oui, il y a, c'était pas des racines, puisque c'était de la colonisation, oui. C'était de la colonisation turque chez nous, là, à ce moment-là. Et donc, je ne crois pas.
Alors,
en ce qui concerne, il est évident que nous appartenons, quels que soient nos sentiments profonds maintenant et nos croyances, nous appartenons à une civilisation chrétienne. C'est tout à fait évident. Nous procédons de la civilisation chrétienne. Voilà. De même que les musulmans même, car il y en a qui sont athées aussi, enfin, les arabes et des musulmans qui sont athées, ils procèdent néanmoins de la civilisation musulmane. Alors, faut-il l'inscrire dans le traité? D'abord, ce traité, bon, il n'existe plus, comme vous le savez, et je n'ai jamais souhaité qu'il existât. Mais nous sommes aussi un pays depuis un siècle, nous sommes un pays laïque, et quand nous avons demandé, on a demandé aux évêques français depuis 2 ou 3 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on change dans la loi de 1905, ils ont dit, surtout rien, c'est parfait. Comme disait un de mes amis, certes il n'y a plus le concordat, mais il y a la concorde. Et au fond, c'est ça l'essentiel.
Il faut dire que c'est assez difficile d'avoir la discorde avec les évêques français en ce moment, ils sont d'accord avec tout le monde.
Comment c'est difficile d'avoir la discorde
avec les évêques français? Ils sont d'accord avec tout le monde. Quoi qu'on dise, ils sont contents.
Ben, vous les connaissez mieux que moi. Je ne connais que les évêques qui ont succédé à Périgueux, et que j'ai trouvé tout à fait remarquable.
En tout cas, dans votre livre, ce qui est tout à fait...
Ah oui, parce qu'on y revient quand même.
Oui, non, mais c'est le livre qui est... Moi, je vous ai invité pour parler du livre. Si mon camarade Goffman vous entraîne sur les terrains rancailleux de la politique politicienne, c'est son affaire. Non, moi, je n'y suis pas. Non, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est exactement... C'est qu'il irradie la pensée traditionnelle d'un Français d'avant, et d'aujourd'hui, mais enfin d'avant. Je veux dire, par là, les exemples que vous nous avez cités, ce sont, et je le dis d'une façon très positive, pas du tout d'une façon ricanante, ce sont des images d'Épinal au sens premier du terme. C'est-à-dire, ce sont ces images qui fixent la mémoire et qui établissent qui marquent les esprits par des événements synthétisés, lesquels événements vont orienter la pensée des jeunes qui vont lire ça.
Et c'est l'objet.
Voilà, mais ça c'est très clair. Moi j'ai tout ce que vous avez cité, à mesure que vous citiez des exemples, j'avais les images dans la tête.
Oui, mais il y a même les images dans le livre.
Il y a les images de Cuzin qui rappellent d'ailleurs tout à fait...
C'est ça, Jean-Marie Cuzin a fait les illustrations, moi j'ai fait le texte. Alors j'ai quand même essayé d'argumenter.
J'entends bien, mais alors justement on va en parler. Ouais. Parce que une chose qui m'a frappé dans ce livre, c'est que vous soulignez par exemple le rôle capital de la monarchie dans l'agrandissement et dans l'unification du royaume. Or ça, c'est aujourd'hui, c'est à la limite du tolérable de célébrer les 43 qui ont fait la France.
Non, moi je célèbre les 43 qui ont fait la France, je célèbre la Révolution qui a apporté les droits de l'homme, je célèbre Napoléon Napoléon qui nous a donné nos institutions actuelles et qui a porté tout de même la gloire de la France à travers toute l'Europe. Pour moi, j'accepte tout de la France. Je dis, j'étais un peu interviewé en Arabie, au Qatar, sur la colonisation. Moi, ma réponse est: il y a eu un temps pour la colonisation, il y a eu un temps pour la décolonisation. Il y a eu un temps pour la monarchie en France, et elle a fait son devoir. Il y a eu un temps pour changer, ça aurait pu changer différemment si Louis XVI avait eu plus de savoir-faire. Bon, mais il fallait qu'à certains moments, ça changeât. Eh bien, ça a changé. J'accepte ce qu'il y a avant, j'accepte ce qu'il y a après. Moi, j'accepte tout dans l'histoire de France. Je ne rejette rien, sauf Pétain. Mais Pétain, c'est pas l'histoire de France, car entre 40 et 45, l'histoire de France, c'est De Gaulle.
Enfin, en 17, Pétain, c'est quand même l'histoire de France.
Ah non.
Ah bon, lorsqu'il a fait en 40, annule ce qu'il avait fait en 17.
J'ai pas dit que ça annulait Verdun. Mais j'ai dit, quoi qu'il y ait une phrase de Richelieu là-dessus qui est tout à fait remarquable, mais je dis que j'accepte tout dans l'histoire de France. Alors, entre 40 et 45, il y a eu des choses abominables, qu'on a prêté la main à la Shoah, enfin, aux déportations des Juifs. Je dis, oui, mais c'est pas la France. Je me sépare un peu de Chirac.
Mais ça a été la position officielle de la France, enfin, gouvernements successifs pendant des années.
J'accepte tout dans l'histoire de France.
Est-ce que la collaboration n'est pas allée beaucoup plus loin pendant la guerre de 100 ans? Que je ne vais pas vous raconter, Président, mais enfin, ce sont des Français font le procès de Jeanne d'Arc.
Oui, mais moi, je n'ai parlé que de la reconquête de la France. C'est vrai qu'il y a eu une collaboration, ne serait-ce que l'évêque.
Et François Ier avec les Turcs, on pourrait...
Ah non, c'est pas de la collaboration. Ah non, pas du tout. François Ier avec les Turcs, c'est fantastique. C'est fantastique. Il est menacé par le Saint-Empire romain germanique. Et comme le Saint-Empire romain germanique est attaqué sur son autre côté par les Turcs, il fait alliance avec les Turcs. C'est formidable, le roi très chrétien qui fait alliance avec les Turcs pour sauvegarder son pays. Donc il fait passer l'intérêt de son pays avant l'attachement à la religion. C'est fantastique. Vive François Ier.
Et à bas Pétain.
C'est resté quand même la ligne de toute la monarchie française, et ça reste encore la ligne principale de la diplomatie française, cette espèce d'alliance constante, de recherche d'alliance constante avec les pays arabes, avec les États arabes.
Oui, nous avons une politique arabe. Le général de Gaulle a développé cette politique arabe. Oui, nous gardons naturellement des relations tout à fait privilégié. M'excuse de dire, mais vraiment, j'ai été reçu par le roi d'Arabie de façon, je dirais, je cherche le mot, chaleureuse. Chaleureuse. Non pas parce que c'était moi, bien entendu, mais parce que j'ai dû représenter Chirac.
Alors, vous parliez de la colonisation. C'est votre livre est inattendu. Parce que en réalité, c'est pas inattendu au sens où il vous ressemble pas. Au contraire, c'est un livre qui, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez envie de dire beaucoup de choses, mais il y a une espèce de retenue qui est une espèce, je dirais, une retenue peut-être de l'homme qui a une grande expérience ou peut-être de l'homme qui, étant donné tout ce qu'il a représenté, les positions qu'il a occupées, se dit ce que je vais dire risque d'être pris en mauvaise part ou d'être mal interprété ou d'être récupéré. Mais sur la colonisation, vous dites c'est une constance. C'est assez incroyable ce que vous écrivez. C'est une constance de l'histoire. Les faibles sont submergés par les forts. Les nations de l'Europe se sont donc installées par la force des armes dans les pays lointains. Leur avons-nous fait subir une domination insupportable? Depuis quelques années, c'est une thèse que certains soutiennent. Elle est pour le moins excessive. Ça veut dire que vous ne la partagez pas du tout.
Non, on ne partage pas. Bon.
Même établie par les étrangers que nous étions et par les armes, notre domination a généralement apporté un mieux-être grâce au bon ordre qui va y régner. Ce fut un moment de l'histoire de notre histoire. Alors, vous nous avez dit plusieurs fois que vous étiez proche du président de la République et que vous aviez avec lui des relations.
Oui, enfin,
évidemment.
Je suis pas en train de le ramener là.
Non, pas du tout.
Enfin, bon,
c'est pas le problème.
Je
sais pas du tout ce que je veux dire.
Je le soutiens.
Je veux dire, c'est que là, il y a quand même, en ce moment en France, une culture, comme on dit maintenant, de la repentance.
Absolument. Enfin, on essaie de nous lancer dans la culture de la repentance, et moi, je ne l'accepte pas, puisque, comme je vous l'ai dit, je reconnais, j'accepte tout ce qui a été fait par la France, j'accepte toute l'histoire de France. Je crois qu'on ne peut pas dire « Ah, ça, c'est pas bien », parce que si on se met à souligner tout ce qui n'est pas bien, un tas de choses qui n'étaient pas bien, bien entendu, à souligner tout ça, au moment où on vous demande le sacrifice suprême pour le pays, vous ne le faites pas. Vous ne pouvez le faire que si le pays est une espèce d'idole, que si vous êtes en position d'aimer la patrie. Cela dit, vous me dites, on sent une certaine retenue. Vous avez bien vu que le livre est pour les petits-enfants.
Pour les enfants, oui, absolument.
Pour les petits-enfants. Donc j'étais obligé de faire des choses simples, mais je ne crois pas avoir déformé la vérité. J'ai même fait des analyses qui sont assez poussées. Si vous avez en couverture la bataille de Mont-Saint-Pével,
oui.
Où vous voyez, personne ne se rappelle ce que c'est.
Non, pas du tout.
Et moi, alors bon, eh bien, deux ans avant, nous avons pris la Pâtée, les Flamands nous ont flanqué la Pâtée à Courtrai. C'était la bataille des éperons d'or, parce que tous les chevaliers qui avaient été jetés à terre ont été égorgés par les Flamands qui leur ont pris leurs éperons d'or. Bon, 2 ans après, Philippe le Bel est allé prendre sa revanche et il a battu les Flamands à Mont-Saint-Pével. Je dis donc, 1, Philippe le Bel a garanti notre frontière du Nord-Est, ce qui est indispensable dans l'histoire de France. 2, Philippe le Bel a fait déposer un pape pour dire, pour bien comprendre, que tout le monde comprenne bien que en France, le seul chef, c'était le roi. Bon, formule qui a été reprise après, le roi de France est empereur en son royaume. Et troisièmement, il a fait le coup des Templiers. Je dis, c'est très difficile à comprendre, mais ce que je trouve de remarquable, c'est qu'il a réussi, ayant donné ses ordres à travers tout le pays, des semaines à l'avance, à ce que les baillis et les sénéchaux se présentent partout, dans toutes les villes, à la même heure, pour arrêter les Templiers. Je dis, il a créé l'administration française. Voilà comment je vois les choses. Sinon,
plus,
on peut dire,
plus, il a retardé la mondialisation,
qu'est-ce qu'il a fait, Philippe le Bel, etc. Eh ben non, moi je prends ce qu'il y a de bien dans Philippe le Bel.
Oui, vous dites que c'est un livre qui s'adresse aux petits-enfants. C'est vrai par la présentation, par la façon dont il est écrit, l'écriture est...
Non, j'ai dit mes petits-enfants,
certains ont 30 ans, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas pour des tout petits gamins, il faut quand même avoir un début de connaissance des choses. Et puis il y a des positions qui sont, encore une fois, inattendues. Par exemple, Napoléon III, aujourd'hui, tout le monde a pris l'habitude de se moquer de Vélocipède III, de considérer que c'était une espèce de monarque un peu.
Oui. Oh, ben, j'ai un pas peu beaucoup farceur. De considération pour lui, non.
Ah, mais pour ça, quand même, vous soulignez que il a augmenté le prestige de la France à l'extérieur par la guerre de Crimée, il a imposé l'unité
c'est tout,
italienne.
La guerre de Crimée, c'est tout. Et l'Italie.
Il a assuré l'expansion industrielle.
Oui, alors, c'est vrai.
Naturellement.
Non, mais quand vous perdez l'Alsace et la Lorraine, vous n'avez plus de place, une grande place dans l'histoire de France.
L'aventure du Mexique, on ne peut pas dire que ça soit la réalisation du siècle, ça c'est évident. Il aurait mieux fait de s'abstenir de s'occuper de ça. Mais c'est quand même assez inattendu de trouver une appréciation positive, globalement positive, comme aurait dit quelqu'un que vous avez connu.
Relativement positive. Oui.
Enfin, si on met en balance.
Ah non, il a perdu l'Alsace-Lorraine. Non, c'est il n'a pas une grande place dans l'histoire de France, voilà, je le dis.
Quelques réactions d'auditeurs, si vous voulez bien. Alors, ça m'est difficile d'être très long, parce que, naturellement, il y a beaucoup, ceux qui se manifestent pour beaucoup sont extrêmement agressifs. Et alors, curieusement, dans un premier temps, on s'en prenait à M. Guénat, et puis je vous donnerai les messages qui ensuite se sont tournés vers vous, Serge de Becquet, et qui sont, pour beaucoup, tellement agressifs que je les mentionne pas, ça n'est pas sérieux.
Moi, je suis pas agressif contre Becquet.
Non. Et lui, avec vous, non plus. Je pense que la grande majorité des auditeurs, la majorité silencieuse, c'est le cas de le dire, apprécie ce dialogue, cette confrontation, on peut aller jusqu'à dire, puisque nous avons des désaccords manifestes. Bon, et donc, quelques auditeurs disent en termes impubliables qu'il ne fallait pas vous donner la parole, et même que Serge de Becquetch est un ceci et un cela pour vous l'avoir donné. Alors, je passe ça sous silence.
Ah, c'est tout contre moi. Même quand on l'attaque, c'est parce qu'il me soutient.
Voilà. C'est terrible. Voilà, Serge est un traître, un ceci, un cela. Alors, je fais seulement état d'un message d'un monsieur qui dit à Serge, évitez de dire que les Russes étaient aussi nos ennemis. Oui. J'habite la Goutte d'Or et jamais je ne collaborerai. Et puis une question que je comprends pas très bien, et vous allez peut-être nous l'expliquer, Monsieur le Président. Pensez-vous organiser quelque chose pour célébrer le 4e centenaire de la naissance de Pierre Corneille le 6 juin 1606 ?
Alors, moi, je n'organise rien. Je n'ai aucune raison d'organiser quoi que ce soit. Je trouve qu'on pourrait le faire. Je ne sais pas si quelque chose est prévu. Je vois pas ce qui pourrait s'y opposer. C'est un grand écrivain de l'époque classique.
Mais savez-vous pourquoi l'auditeur vous adresse cette question? Parce que vous êtes né dans le Finistère, vous avez été maire un quart de siècle de Périgueux, vous êtes président de l'Institut du Monde Arabe. Pourquoi est-ce que l'auditeur, j'espérais que vous alliez nous expliquer l'intention cachée de l'auditeur. En quoi ça vous êtes apparenté à Pierre Corneille? Pourquoi est-ce
Non, je suis pas apparenté, je n'ai pas cet honneur.
Pourquoi l'auditeur vous interpelle sur Corneille?
Et pourquoi cet auditeur m'interpelle pour Corneille? Il doit probablement avoir dans la tête l'idée que des gens considèrent que puisque le Cid a battu les Arabes.
Qui étaient très mal.
Hein, non, mais vous me demandez une réponse. Elle me sort de la tête comme ça.
C'est vrai, pourquoi?
Il demande le chef, je me nomme, il se rende. Il n'y a rien d'offensant dans cela.
Bon, je voudrais rester sur votre livre. Il y a quand même une chose qui me... Il y a des choses qui me paraissent mériter une explication. Vous dites la Révolution française a, vous nous dites la Révolution française a instauré les droits de l'homme. C'est au moins un résumé.
Oui, mais je peux vous développer ça. Je dis, vous savez, il arrive souvent que les pays qui sont rattachés à l'Institut du Monde Arabe se trouvent contestés par dans des débats sous prétexte qu'ils ne connaissent pas la démocratie et les droits de l'homme. Bon, alors ce à quoi je réponds, que moi je ne me permets de faire la leçon à personne. Pourquoi? Certes, nous sommes en démocratie aujourd'hui. Peut-être que ça dérange certains. Mais
oui, moi je suis pas fanatique, mais d'autant que
aujourd'hui et les droits de l'homme sont appliqués. Mais je dis, il nous a fallu 90 ans pour arriver à cela. La Déclaration des droits de l'homme, c'est août 1789, et on peut considérer que le régime vraiment démocratique en France, avec les lois principales l'appuyant, ça remonte au départ de MacMahon. On peut dire à MacMahon, au départ de MacMahon. Donc 1799-1878, je dis, laissez aux autres le temps. Nous avons pris 100 années pour y arriver, 90 années pour y arriver, et donc en aucun cas je ne ferai la leçon. Ça m'est déjà arrivé lorsque j'étais président du Conseil constitutionnel et que je recevais des délégations de pays qui n'étaient pas tout à fait au haut niveau pour la démocratie. Je pense à la Chine. Et comme ils savaient que on leur posait souvent cette question, ce que j'aurais jamais fait, ça m'est arrivé avec délégations chinoises importantes, qu'on commença de leur côté à parler de la démocratie insuffisante chez eux. Et je leur dis, arrêtez-vous, ce n'est pas moi qui vous poserai la question, et ce n'est pas moi qui vous donnerai, qui vous ferai la leçon.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, n'est-ce pas Serge?
Oui, et je reçois M. Yves Guéna.
Qui est encore mieux.
qui est ancien député, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui président de la Fondation Charles de Gaulle, et président du...
L'Institut du monde arabe.
Voilà. La peine à dire le mot.
Non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas évidemment que vous soyez président de l'Institut du monde arabe, c'est pas ça. Je trouve qu'il est normal qu'il y ait en France un Institut du monde arabe. Je me bornerai. Alors moi, je serais content s'il n'y avait que l'Institut du monde arabe. Ça me paraît une représentation suffisante du monde arabe en France.
C'est mon opinion et je la partage. L'Alliance française ferme ses maisons dans le monde entier.
C'est ça, l'affaire de l'Alliance française, c'est pas l'affaire de l'Institut du monde arabe.
Non, mais bien sûr. Mais c'est par comparaison. C'est-à-dire, on voit qu'il est en train de se passer des choses. Vous écrivez à propos de la naissance du socialisme sous la monarchie de Juillet. L'opinion commence à prendre conscience qu'après la révolution politique de 89 arrive une révolution économique et l'idée va cheminer de savoir si après avoir proclamé l'égalité politique à la fin du siècle précédent, on pourrait réclamer l'égalité dans la vie quotidienne pour les hommes. Et ça, ça se passe donc la monarchie de Juillet, il y a maintenant 160 ans.
Oui, 1830, un peu après. Le premier drapeau rouge, c'est 1848.
C'est ça, c'est 48.
Mais je suis pas socialiste.
Oui, rassurez-moi. Rassurez-moi.
Non, mais je constate.
Non, mais la question qui se pose, c'est la question que vous posez là, c'est celle de... Le socialisme a mis en œuvre, en tout cas, un processus à l'issue duquel on doit assurer l'égalité entre tout le monde. Or, on voit bien que 160 ans plus tard, alors vous disiez 90 ans pour établir les droits de l'homme politique.
Mais le socialisme est un échec. Le communisme est un échec. Et le socialisme, même le socialisme français, est un échec. Je vois pas ce qu'ils vont présenter comme programme pour Madame Ségolène Royal, si c'est elle. Ça a raté totalement.
Bon. Moi, je trouve que l'idée d'avoir une présidente qui s'appelle Royal, c'est plutôt plaisant pour un monarchiste.
Qu'elle avait accouché presque en public.
Tout à fait en public. Elle a vendu les photos à Paris Match. Ensuite, elle a dit qu'elle regrettait, mais elle n'a pas rendu l'argent. Cependant, elle a un look à déclarer.
C'est vous qui le dites.
Madame Chirac a déclaré récemment à nos confrères, Le Parisien, je crois, qu'elle avait un look et que les femmes au pouvoir, c'était l'avenir.
En tous les cas, c'est pas le passé.
Et c'est vrai qu'elle est au moins aussi jolie que Mme Thatcher l'était, ou que Mme Golda Meir. Donc, après tout, sur le plan de la représentativité, elle est plutôt
plus jolie. Soyons honnêtes.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Plus jolie, encore plus jolie, je dirais.
C'est très machiste, ces propos-là.
Nous, des machos,
d'être jolie, on lui demande d'être capable.
Oui, mais qui va garder les enfants?
Qui va garder les enfants?
Ce sont les machos du PS qui disent ça.
Non, mais c'est Fabius qui dit ça.
Et vous parlez de la commune aussi. Alors là, la commune, quand même, je trouve votre façon de traiter le sujet un petit peu, comment dire, à droite. Vous dites, c'est pas facile à démêler.
Non, c'est pas facile à démêler.
Vous voulez dire par là que vous y trouvez des aspects positifs?
Eh bien, ce sont c'était des résistants.
Je vois bien que vous reconnaissez dans ceux qui ont refusé.
Un petit peu, oui. C'était des résistants et ils étaient dressés contre l'assemblée de Versailles, qui était une assemblée très très à droite. Alors, est-ce qu'ils portaient leurs efforts plutôt contre les Prussiens, enfin, je simplifie, ou contre l'assemblée de Versailles, l'assemblée de droite, on le sait pas très bien, mais un mouvement qui est beau, et puis ils sont morts, et vous savez, s'ils ont fait des fautes, ils sont morts en combattant les armes dans la main face à l'armée régulière. Bon, ben je les salue.
Mais vous saluez. Ils ont assassiné l'archevêque de Paris.
C'est ceux-là qu'ils ont achevé. Non, c'est pas un détail. Mais enfin, l'archevêque de Paris, du coup, il se retrouve au paradis, là, à coup sûr. Hein.
Avec des raisonnements comme ça, on va envoyer beaucoup de monde au paradis.
Jean-Pierre Maugendre. C'était pour l'objection de Jean-Pierre Maugendre, Renaissance catholique, que nous recevons tout à l'heure.
Il faut des martyrs dans la religion.
Il en faut, mais on l'accepte pour soi, on est dispensé de le distribuer aux autres.
Pour autant, vous ne maltraitez pas Thiers.
Je maltraite pas.
Et quand vous parlez de Thiers, vous ne le condamnez pas vraiment.
Non, je ne condamne pas vraiment. Mais enfin, quand je dis qu'à un moment, toute l'assemblée à Versailles s'est levée pour saluer le libérateur du territoire, je dis que c'est un peu exagéré.
Oui, enfin, bon. Disons que c'est une incarnation.
Oui, enfin, c'est un peu exagéré.
Gambetta a plus vos faveurs.
Gambetta a eu une bonne réaction en 1870. Il a voulu continuer la lutte. Ensuite, il n'a pas fait grand-chose. Mais il faut dire que le genre de régime de la Troisième République ne permettait pas à des hommes de valeur de s'affirmer.
Et Ferry, quel est votre...
C'est bien Ferry, vous savez.
Ça dépend si on parle de Ferry Famine, de Ferry Tonkin.
Ferry Tonkin, ils l'ont renversé parce qu'il y a eu un combat malheureux au Tonkin. Mais enfin, il a participé. Il a été un moteur dans l'installation de la colonisation dont vous parliez en Indochine. Et puis, moi, je trouve que l'école publique, gratuite, obligatoire, avec tous les gosses des campagnes qui, à 12 ans, savaient lire et écrire, avaient leur certificat d'études.
Et parce qu'avant Ferry, ils ne savaient pas.
Ah, si, ils savaient. Avec les curés
ils savaient, mais il y a eu un grand mouvement en avant. Parce que les illettrés ont cessé à partir de la loi Ferry, à partir de 1900. Bon, non, vous pouvez dire le contraire.
Jean-Pierre
Maugendre, vous nous le direz tout à l'heure.
Je ne sais pas à quel titre vous m'interpellez, monsieur. Je sais que Jean-Pierre Maugendre célébrait.
Il est là au titre de représentant d'une association catholique. Alors, il faut
connaître un petit peu le sujet, mais je crois qu'on a des bonnes statistiques. C'est les enquêtes qui sont faites au moment de ce qui s'appelait l'incorporation. Pour les gens qui étaient appelés à leur service militaire, on n'observe pas une augmentation manifeste du nombre de gens qui savent lire et écrire partir du moment des lois Ferry.
Dans mes statistiques, on les observe.
Mais lorsqu'on observe,
je dois dire que puisqu'on a dit quel âge à peu près j'avais, j'ai connu de très vieilles dames à la campagne, des paysannes dans la campagne. Et ben, je peux vous dire que celles qui avaient, lorsque j'avais 10 ans, celles qui avaient une soixantaine d'années, ne savaient pas lire et écrire, et que tous ceux qui avaient pu accéder vers 1900 à l'école publique primaire, laïque et obligatoire, bon, c'est égal qu'elle soit laïque, hein, mais c'était ainsi, savaient lire et écrire. Non, monsieur, revisez vos statistiques, elles ne sont pas bonnes.
Alors, je voudrais intervenir là-dessus. En tout cas, on peut discuter des statistiques anciennes. Il y a une statistique dont qu'on ne peut pas contester, c'est la statistique d'aujourd'hui, en tout cas celle qui est officielle, c'est qu'on vit toujours sous le régime de l'école laïque, gratuite et obligatoire, et que quand on arrive au service militaire, il y a 20% des gens qui sont des illettrés complets.
Je précise que l'éducation nationale a cessé en 99 de faire des tests d'évaluation, parce qu'en 98, on a dépassé le seuil des 20% d'illettrés en 6e.
Excusez-moi, monsieur, Je suis ici pour parler de mon livre d'histoire, mais... et je l'ai arrêté en 1970. Je ne sais pas ce qui s'est passé après.
Mais votre livre, justement, alors c'est pour ça que je voulais aller plus loin sur cette question de l'instruction publique. C'est que votre livre, il répare une lacune, qui est une lacune absolument dramatique. C'est que aujourd'hui, les enfants, les jeunes gens, les adolescents, les jeunes gens, ne savent rien de l'histoire de France. Absolument rien.
C'est vrai.
Et on en est arrivé au stade où un livre, qui est un livre pour, qui aurait été il y a 30 ou 40 ans, un livre d'enfants, devient pratiquement un guide pour la connaissance des grandes lignes de l'histoire de France à l'usage des adultes.
Et c'est ce que beaucoup d'adultes m'ont dit.
Continuez, l'histoire Serge. De France racontée à mes petits-enfants par Yves Guéna, qu'on va libérer d'ailleurs parce que je crois que vous avez d'autres obligations.
Oui, mais je suis très bien ici, alors, remarquez.
Un mot quand même sur...
Sauf quand je suis attaqué sur ma droite.
Bah, écoutez, c'est bonne des choses quand même. Que, si c'est pas Mojande qui vous attaque sur votre droite, je ne sais pas qui c'est ça. J'aurais un mot sur Jean-Marie Cuzin, qui a fait des dessins superbes.
Superbes.
Et
oui.
Dans la grande tradition des dessins de livres d'histoire de notre enfance.
Hein. Exactement.
J'ai retrouvé exactement la plume, le trait qu'on avait avec Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de César.
Tout à fait.
Jeanne d'Arc levant les yeux vers le bon Dieu sur son bûcher. Les sergents Massier. Enfin, bref. Il y a toute cette épopée en images de l'histoire de France. Et alors, ça, c'est parfaitement réussi. Le texte est extrêmement intéressant parce qu'il est simple, il est très abordable, puisque vous l'avez écrit pour des adolescents, des enfants.
Oui, pour des adolescents, enfin, pour des jeunes, des pré-adolescents, voilà.
Et en gros, on peut dire que, si vous le permettez, les idées sont bonnes, à part deux ou trois.
Alors, notamment, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Là.
Ah, ça n'est pas ce que disent plusieurs dizaines d'auditeurs sur les messages desquels je suis obligé de m'asseoir par simple courtoisie.
Mais je suis surpris, ils l'ont probablement pas bien sortir le livre.
Oui, enfin ils objectent simplement la présence de Monsieur Guéna dans nos studios, oui. Et moi je tiens.
Malheureusement pour eux c'est pas.
Ah bon, parce qu'il faut montrer les pattes blanches.
Il faut quand même préciser une chose, c'est que.
Je vous rassure Serge, c'est vous qui êtes attaquer maintenant systématiquement et non pas monsieur Guéna.
Récemment, monsieur Miard, député.
Non, mais je connais très bien monsieur Miard.
Ce qui m'a valu une avalanche de protestations. Alors, ça, c'est quand même quelque chose que je trouve extraordinaire. Bon, c'est vrai que j'appartiens à une famille politique française qui est à l'extrême droite. En tout cas, moi, je suis d'extrême droite et je ne le cache pas. Mais nous passons notre temps, nous, à nous plaindre de n'être jamais invités de nulle part. On nous donne jamais la parole nulle part. Mais quand on a une émission, nous, et qu'on donne la parole à des gens avec lesquels on n'est pas d'accord surtout, on nous dit, mais pourquoi vous leur donnez la parole? Ben, je leur donne la parole au nom du fait que moi, je voudrais qu'ils me donnent la parole aussi. C'est aussi simple que ça, parce que ça me paraît le simple bon sens.
Permettez-moi, Serge, d'ajouter que, moi, non seulement j'approuve et je vous ai de la gratitude pour l'invitation de Monsieur Guéna, mais j'ai de la gratitude pour Monsieur Guéna aussi, qui nous fait l'honneur de venir débattre courtoisement, comme c'est le nom de la radio, et de façon passionnante avec nous. Il a dit des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquels les auditeurs peuvent être en désaccord, mais il nous fait l'honneur de venir débattre et de venir avec fraîcheur et conviction, car c'est un guénarque et non pas un énarque, des opinions intéressantes et pas toujours si éloignées des nôtres. Écoutez mieux, chers amis.
Et puis il y a de toute façon une chose sur laquelle on va tomber forcément d'accord, c'est quand vous abordez la guerre de 14-18, on célèbre aujourd'hui le début de la bataille de Verdun, et que vous dites, vous définissez 1914-1918 comme un sommet du patriotisme français. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé de. Enfin, c'est là-dessus que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, quels que soient leurs engagements politiques, leurs engagements militants, leurs engagements philosophiques, peuvent se retrouver. C'est que nos grands-pères, nos pères, ont accompli.
Il fallait tenir, hein.
Épouvantable tragédie.
4 ans dans cette tranchée,
tenir.
C'était.
Et
terrifique.
Je crains fort que tous les donneurs de leçons d'aujourd'hui, soient, le cas échéant, dans les plus grandes difficultés s'il s'agissait de recommencer.
Mais on va voir déjà s'ils sont nombreux à la manifestation, je crois, de vendredi devant l'ambassade du Danemark, ou à vendredi soir à 18h devant l'ambassade du Danemark. On va voir si les gens qui nous engueulent par téléphone vont sortir sous la pluie et venir protester contre la loi islamique.
Merci.
Mais je n'en serai pas.
Ça, c'est de la diplomatie. Merci, monsieur Huguenin. Merci, monsieur le président du Conseil constitutionnel. Ancien, mais c'est un titre qu'on garde toute sa vie, ça, c'est comme ministre.
Non, absolument pas. Ah bon. Absolument pas. Alors, je suis ancien président du Conseil constitutionnel, c'est tout.
Et puis, je recommande aux auditeurs la lecture de Histoire de France racontée à mes petits-enfants, qui est parue aux éditions Pascal dans la collection Jeunesse. Merci, monsieur.
Merci.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Eh bien, on va donner la parole maintenant à M. Maugendre, puisqu'il la voulait tant. Hein ? Au revoir, monsieur.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Non, non. Un gros blanc.
Nous sommes donc toujours sur Radio Courtoisie. Nous recevons maintenant M. Jean-Pierre Maugendre. Alors, si vous voulez engueuler Beckett, je pense que M. Maugendre, c'est le moment où vous pouvez...
Vous avez de la lecture, Serge.
Téléphone.
Vous avez déjà pas mal de lecture.
Oui, oui. Ouais. Je dois dire que je suis quand même assez stupéfait de voir cette façon dont on voudrait enfermer les gens dans un ghetto, Serge.
Et nous avons des amis, entre guillemets, qui arrivent, vous savez, comme la vieille avec son fagot sur le bûcher de Jean Hus, nous avons des amis, entre guillemets, qui arrivent avec du plâtre et du ciment. Merci beaucoup.
Voilà. Mais je vous réserve d'autres surprises du même genre, chers auditeurs. Bon, et puis il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que c'est intéressant le courrier des auditeurs, la réaction des auditeurs, les appels des auditeurs. Mais ça n'est pas statistiquement valide. Voilà, ce qu'il faut dire. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui téléphonent 4, 5, 6 fois dans l'émission.
Et je confirme.
On connaît leur voix, donc on peut le dire. Les téléphonistes les connaissent. Et d'autre part, parce que il y a deux motifs pour téléphoner. Ou on est absolument enchanté. Alors on téléphone en disant bravo, c'est formidable, merci. Ça, si je reçois Jean-Marie Le Pen, par exemple, je suis sûr d'avoir une vague d'appels. Enfin, bravo, c'est magnifique. Bon. Ou alors on n'est pas content du tout. Alors on téléphone pour gueuler en disant vous êtes un traître, vous êtes un salaud, vous avez trahi le combat. Combien vous touchez ? Combien vous touchez? Là, j'ai touché exactement 28,30 €, puisque c'est le prix du livre qu'on m'a offert. 28,50 €. Tiens, j'avais pas donné le prix. Et, je sais pas, mais je peux pas vendre des livres, donc je vais même pas récupérer mon fric. Mais le reste, la plupart des auditeurs se bornent à écouter, à se faire une opinion, à dire, bon, cette émission était intéressante, celle-là, non, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, puis après, où ils me l'écrivent, où ils viennent me le dire. Mais je crois pas obligé de m'insulter, de me traiter de traître, de vendu, de pourri, de prébendier, de...
Serge, est-ce qu'on peut contenir notre ami Maugendre encore deux minutes, le temps que je fasse quelques annonces que j'ai peur de pas avoir le temps de faire tout à l'heure. Alors je disais donc qu'il y a tous ces vaillants objecteurs, disons, qui s'adressent à nous avec violence parce qu'on a invité quelqu'un qui est pas tout à fait notre bord. Alors ils vont pouvoir déployer tout leur courage vendredi 24 février à 18h devant l'ambassade de Danemark. Donc ceux qui n'acceptent pas la loi islamique en France, c'est appelé notamment par Chrétienté Solidarité, sans doute que Bernard Anthony donc nous en reparlera tout à l'heure, la Révolution Bleue de Claude Reichmann et pourquoi pas, Europe et Gentes d'Olivier Pichon, etc., etc. La veille, c'est-à-dire demain, jeudi 23, ou aujourd'hui pour ceux qui écoutent les rediffusions, jeudi 23 février, à 19h30 précise, les organisateurs des soupes au cochon de Paris, Nice, Strasbourg, Bruxelles, Charleroi et Anvers vous convient devant la maison de la mutualité pour là aussi contre la loi islamique. Le 16 février dernier encore, on a dépêché des CRS particulièrement excités contre une distribution de soupe au SDF à Paris. Donc rendez-vous pour tous les ceux qui veulent soutenir ces soupes aux cochons demain 23 février à 19h30 précise devant la maison de la mutualité, c'est rue Saint-Victor, métro Maubert, mutualité. Centenaire de la mort, vous allez en parler de...
Alors, c'est notre voilà. Sujet.
Ouais, c'est notre sujet. Alors, je saute ça pour signaler que le docteur Dor se réveille. Il organise une manifestation le 25 février. Je vais essayer d'en trouver une deuxième. C'est vrai que j'ai souvent servi, et là je vais tâcher de trouver un deuxième jeu de mots sur le nom du docteur d'or pour la prochaine fois. Le 25, donc SOS Tout Petit organise le 25 février à 14h30 une manifestation, place Saint-Michel.
J'en ai une. Le docteur d'or n'est pas un homme d'argent.
Bravo. Merci Serge. Donc, manifestation de SOS Tout Petit le 25 février à 14h30, place Saint-Michel. Et enfin, il est grand temps de s'inscrire à la journée Jacques Bainville, mais là encore, Anthony en parlera tout à l'heure, je pense, de samedi 25 février au centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain dans le 5e. C'est le même métro Mutualité, c'est même encore plus près. Donc, téléphonez au 01 47 34 02 97. Il s'agit d'une série de conférences sur Jacques Bainville et l'histoire de France, c'est tout encore.
Alors passons là maintenant à un autre ouvrage qui est aussi un ouvrage d'histoire qui s'intitule d'une façon, comment dirais-je, prime sautière, Inventaire sanglant en Flandre. On dirait un roman policier, mais c'est l'affaire, c'est pas drôle du tout, parce que c'est la tragédie de Giry Gisèle qui a été tué dans l'église de Beauchep le 6 mars 1906, et c'est un tout jeune homme qui a écrit ça, qui s'appelle... Enfin, en tout cas, il est tout jeune, quoi. Il doit avoir...
Apparemment.
20 ans, à tout casser.
22
ans. Étonnant, aussi. Qui a écrit ce livre, préfacé par Jean-Pierre Maugendre. Alors, j'ai invité le préfacier et l'auteur, comme ça, ils vont pouvoir débattre entre eux. On est sûr qu'ils se battront pas.
A priori.
Et on va pouvoir se reposer 5 minutes.
Les auditeurs vont les engueuler, c'est sûr.
Alors,
quelques mots d'introduction, puis après, je propose que Jean Vallier explique en détail de quoi il est question. On a beaucoup parlé des lois de séparation de 1905, puisqu'effectivement, en décembre 1905, ont été votées les lois de séparation des églises et de l'État. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il était prévu dans cette loi que un inventaire serait fait de l'ensemble du mobilier qui se trouvait dans les églises, de manière à ce que l'on sache de quoi les associations cultuelles qui devaient prendre possession de tout ce mobilier, de tout ce matériel, de quoi elles devenaient propriétaires. Bien. Et l'événement qui nous intéresse présentement, c'est que ces inventaires ont démarré en février et le 6 mars 1906, il y a eu un mort en l'église de Beauchep. Alors Beauchep, c'est 40 km au nord de Lille, c'est au pied du mont des Cats et un garçon boucher a été tué. Là, je vais laisser Jean Vallier vous développer un petit peu de quoi il a été question. Ce que nous avons souhaité, c'est en cette période de commémoration, de commémoraison, ça c'est le vocabulaire plus ecclésiastique. Nous sommes surpris de voir comment cet événement, cette question des inventaires, qui a quand même entraîné la démission de plusieurs dizaines d'officiers, qui a entraîné l'emprisonnement de plusieurs centaines de laïcs catholiques, de plusieurs centaines de prêtres également, puisque ils se sont tous opposés à l'inventaire de leurs églises, eh bien, de tout cela, aujourd'hui, il n'y a aucun écho. Bon, et nous avons souhaité marquer l'anniversaire, le centenaire de la mort de Géry Gisèle, en organisant une manifestation à Beauchep, sur laquelle je reviendrai. Donc, je vous propose que Jean Vallier, donc qui est un jeune historien qui a fait son mémoire de maîtrise sur les inventaires dans le doyenné de Tourcoing, développe un petit peu dans le détail ce qui s'est effectivement passé à Beauchep et quel a été le contexte général de cette affaire.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Le contexte général, c'est tout depuis 1879 et l'arrivée des républicains au pouvoir, c'est toute une période d'anticléricalisme qui devient légale. Donc tout à l'heure, Yves Guéna parlait des lois Ferry et de l'enseignement, c'est exactement ça. Mais c'est la suppression du repos dominical, du divorce, la laïcisation du personnel des écoles, etc. C'est les expulsions des congrégations après 1901 et la loi sur les associations. Donc ces expulsions sont entourées de manifestations de grande envergure, et même du côté de Beauchep, puisque on parlait du Mont des Cats, il y a une abbaye cistercienne au Mont des Cats et les moines ont dû partir en Belgique. Donc ça continue avec l'arrivée d'Émile Combes comme président du Conseil. Et pour finir, les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège sont supprimées en 1904. Donc toute cette ambiance d'anticléricalisme est la cause du drame de Beauchep. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la loi de séparation. C'est l'article 3 qui impose les inventaires. Et l'article 3, pendant les débats parlementaires, n'a n'a pas posé de problème. Il y a eu très peu de débats là-dessus. Parce que pour tous, et même pour les députés catholiques, les inventaires étaient une simple mesure de conservation. Et le problème est apparu au mois de janvier 1906, quand une circulaire de l'enregistrement demandait l'ouverture des tabernacles pendant l'inventaire. Donc c'est tout de même assez gênant pour les catholiques. Et donc c'est de là dont tout est parti, et toute la protestation des catholiques et toute l'opposition, la résistance des catholiques aux inventaires est partie de cette ouverture des tabernacles. Donc ça a été conforté par l'encyclique du pape Saint Pie X, Vehemem Ternos, qui donc encourage les catholiques à continuer ainsi. Et c'est dans toute cette atmosphère d'agitation politique que se passe le drame de Boskep, donc le 6 mars, dans cette commune à côté de la frontière belge, où tout le monde parle flamand. Et le précepteur Coalet doit aller inventorier l'église de Boskep, et il est accompagné de l'armée pour forcer les barrages et les barricades des catholiques. Et c'est dans ce cadre-là, en rentrant à la fin de l'inventaire, que des manifestants rentrent par l'arrière de l'église et se mettent à lancer des chaises, comme ça se faisait un peu partout en France, lancer des chaises sur la police. Jusqu'ici, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que le percepteur a été visiblement un peu trop de gêné des chaises qui lui tombaient sur lui, et donc son fils, croyant son père en danger de mort, a tiré sur Jerry Gisèle.
C'est quand ils ont commencé à chanter l'orgue de la tribune qu'ils ont trouvé.
Non, il y avait un danger. Non,
y a on pas est là pour tout niquer.
Il n'y a pas eu l'orgue, il y a eu des portes, je crois, mais bon. Et donc le fils du percepteur a tiré sur un manifestant. Il s'appelait Jerry Gisèle, un garçon boucher de 29 ans, père de 3 enfants, encore assez jeune. Donc l'enterrement a lieu le 10 mars suivant, et c'est là qu'il faut souligner, puisque le clergé était important, il y avait un représentant de l'archevêque de Cambrai, vicaire général, qui a défini Jerry Gisèle comme un martyr, un témoin du Christ. Et donc il a été enterré en grande pompe au cimetière de Boskep. Alors si il n'y avait que ça, je pense que ce serait pas, enfin ça resterait tout de même un martyr et un témoin du Christ, mais les conséquences de Boskep ont été tout de même assez importantes, puisque le gouvernement Rouvier, donc le gouvernement en place à l'époque, est tombé à cause de la mort de Jerry Gisèle. Le gouvernement est rattrapé par l'actualité, et donc on lui pose des questions sur Boskep. Et son explication ne convainc ni l'extrême gauche qui veut continuer les inventaires encore plus, ni les catholiques qui, eux, veulent l'abrogation de la loi. Et donc il est mis en minorité et tombe. Et les inventaires sont suspendus à cause de la mort de cet homme, de ce flamand de Boskep.
Mais quand on réfléchit, c'est une histoire absolument révoltante, parce que c'était du vol, purement et simplement du vol.
Alors c'est ce qui est développé en particulier, puisque au moment du débat à l'Assemblée nationale, hein, le député de cette circonscription était l'abbé Lemire, oui, qui était député d'Hazebrouck, donc... sa position, lui, sur les lois de séparation, il disait, moi, je suis contre, mais je suis contre parce qu'on me donne l'ordre, parce qu'il était prêtre quand même, mais il dit, sur le fond, je pense que c'est une bonne chose. Donc il était vraiment pas opposé au processus en cours. Et dans l'intervention à l'Assemblée nationale, il le dit, voilà, ce garçon, ce Jerry Gisèle, tout le 19e siècle, sa famille a restauré l'église. C'est-à-dire qu'elle avait été très fortement endommagée au moment de la Révolution, etc. Et donc, il dit, la famille Gisèle, elle faisait partie d'un ensemble de familles qui ont restauré l'église. Et quand on leur dit, maintenant, on va faire l'inventaire de ce que vous avez donné, ils disent, c'est du vol. Et comme ils considèrent que c'est du vol, eh ben, ils se laissent pas faire.
Et puis c'était la deuxième fois qu'on leur disait il y a un inventaire. Enfin, ça reprenait l'inventaire de la Révolution et la spoliation de la Révolution. Et donc, dans les protestations des curés, on retrouve beaucoup cette référence à la Révolution, en disant, on nous avait dit en 1790, vous verrez, on fait juste un inventaire, et après ça restera au culte catholique, et en fait on nous a tout volé, on nous a tout pillé. Et comme ils ont mis quand même 100 ans à tout reconstruire et Ils s'en souviennent, c'est leurs parents, c'est pas loin la révolution pour quelqu'un de 1906, c'est juste 100 ans, donc ils se souviennent très bien de la reconstruction et de la rénovation de l'église, et donc ils ont pas envie que ça recommence.
Et je me souviens, enfin, j'ai pas la réponse à la question que je vais vous poser, donc c'est vraiment une question. Est-ce que ce n'est que les églises catholiques, enfin que les biens catholiques qui ont été saisis à l'issue des inventaires, ou est-ce que c'est tous les biens appartenant à toutes les associations cultuelles?
Alors ce ne sont pas que ce n'est pas que l'église catholique qui est concernée par la séparation des églises et de l'État, comme c'est le titre de la loi exacte. Les juifs et les protestants...
Ah, je sais, oui, mais est-ce qu'on a pris aussi leur...
Il y a eu des inventaires, mais eux ont accepté les associations culturelles. Parce que chez les juifs et les protestants, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pape.
Et donc, chez les protestants, il y en avait. Chez les juifs,
mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'évêque. Donc les associations cultuelles, en fait, étaient contraires à la hiérarchie de l'Église. C'est pour ça qu'elles ont été refusées par Saint Pie X. Et il n'y a pas eu ce problème-là chez les juifs et les protestants. Donc les inventaires chez les juifs et les protestants, c'était en effet une simple formalité.
Il n'y a pas de présence réelle aussi. Il y a ce qu'a évoqué Jean tout à l'heure. Le fait de demander qu'on ouvre le tabernacle, pour un catholique, c'est quand même important et vexatoire.
Mais c'était fait pour ça, j'imagine. Ce qui ressort de vos recherches, c'est que l'objectif de ces inventaires, c'était... d'exercer des mesures vexatoires, c'était pas simplement de...
Les inventaires, je sais pas, la loi de séparation, oui, c'est clairement anti-catholique.
Mais pousser les catholiques à la faute, en quelque sorte.
Non, puisque le gouvernement s'attendait pas à une résistance des catholiques pour les inventaires. La preuve, c'est que pendant les débats parlementaires, les députés catholiques ont même voté cet article 3 sur les inventaires en se disant au moins on sera pas spolié puisque les biens passeront directement des églises, des fabriques aux associations culturelles et donc il y aura pas de détournement de biens d'église au passage. Donc le gouvernement et les anticléricaux ne s'attendaient pas du tout à une réaction comme ça des catholiques et ne s'attendaient pas non plus au refus des associations culturelles du pape.
Alors je crois ce qu'on peut noter aussi, ce qui est important par rapport au contexte actuel, c'est que tout ça s'est déroulé avec le soutien et les encouragements vigoureux de la hiérarchie, en particulier à l'époque. Alors ça, c'est un des effets heureux de la loi de séparation. Il n'existait pas de diocèse à Lille, c'est-à-dire que toute cette région des Flandres dépendait de Cambrai, et c'est en fait les lois de séparation qui ont permis à Saint Pie X d'instaurer ce diocèse de Lille qui n'existait pas. Et tout ça se passe avec les encouragements de l'évêque de Lille qui est Monseigneur Saunois.
Archevêque de Cambrai.
Archevêque de Cambrai, pardon, oui, puisque Lille n'existait pas. Et je crois qu'il est intéressant de noter aussi qu'un prélat flamand s'étant rendu à Rome auprès de Saint Pie X, Saint Pie X a manifesté de manière officielle le soutien qu'il apportait à l'ensemble des catholiques de ce diocèse, l'archevêque dans sa résistance, les prêtres, les fidèles, etc. Ça, c'est un élément important.
Mais en même temps, l'espèce de terrorisme que ça a créé, parce que ça a créé un véritable terrorisme, a porté ses fruits. C'est-à-dire qu'après, immédiatement après, la hiérarchie se couche.
Non, parce que la hiérarchie, elle obéit à Saint Pie X, parce que ce qu'il faut savoir...
Oui, mais après Saint Pie X, quand elle arrive...
Les temps changent, et puis il y a quelque chose qui change aussi, c'est la guerre de 14.
Oui, c'est la guerre de 14 où les instituteurs et les curés sont retrouvés dans la même tranchée.
Et on n'est plus du tout, après la guerre de 14, on n'est plus du tout dans le même climat, c'est-à-dire que les lois restent ce qu'elles sont, mais les relations avec le Saint-Siège sont rétablies, et puis il se met en place un modus vivendi. Alors ce qui est vrai aussi, le président Guénal évoquait tout à l'heure, il a entièrement raison, aujourd'hui l'épiscopat français se satisfait de la situation qui a été créée par la loi de séparation de 1905, mais ce qu'il faut savoir aussi quand on relit, je crois, les deux textes majeurs, c'est Vementernos de Saint Pie X dont parlait Jean Vallier et puis une encyclique de Pie XI qui s'appelle Maximam Gravissimam Quae, c'est aussi que l'épiscopat français aujourd'hui n'a plus la prétention qui était celle de l'Église et de l'Épiscopat jusqu'à la période des inventaires et des lois de séparation, c'est-à-dire de régir la société, c'est-à-dire de dire ce qui est bien, de dire ce qui est mal, et puis de mettre tout en œuvre pour que la loi morale soit au minimum respectée. Et il y a aussi une, je dirais, un apaisement qui est lié au fait, eh bien, que la l'Église, en tout cas ses représentants dans l'Église de France, sur les principes, n'ont plus sur les relations de l'Église et de l'État exactement la même position que celle qu'il y avait il y a 50 ou 60 ans.
Je vous interromps un instant pour transmettre la question d'un auditeur. Le fils du percepteur assassin du garçon Boucher a-t-il été condamné par les tribunaux? C'est un détail, mais...
Non, il y a eu légitime défense.
C'est un détail intéressant, alors.
Mais pour revenir à la loi de 1905, en fait, elle n'est pas appliquée pour les catholiques. Parce que, non. En ayant refusé les associations cultuelles, les catholiques ont créé un vide juridique que Briand et les anticléricaux et le gouvernement a dû combler malgré lui. Donc ça s'est pas du tout passé comme ce qu'ils voulaient. Et donc c'est la loi du 2 janvier 1907 qui fait l'Église catholique seule affectataire des bâtiments de culte. Mais sinon, pour parler de la spoliation, tous les évêchés, les presbytères, les couvents, enfin, et même les fondations de messes, enfin, l'argent des messes, tout ça a été récupéré par l'État.
Les boutons de culottes y compris.
Limite. Et c'est pour ça qu'on trouve des sous-préfectures dans des palais épiscopaux.
Et ça, je crois aussi, on peut le dire, c'est la volonté du pape, c'est-à-dire la brochure qu'a faite Jean Vallier sur ce sujet, il le montre bien. Les évêques, eux, ils étaient prêts à se soumettre, quoi. C'est-à-dire, ils étaient prêts à suivre, on peut pas se... Et c'est Saint-Pédis qui a dit, je refuse, et les évêques ont suivi, ils ont obéi. Ils avaient dit d'ailleurs, on obéira.
C'était des évêques concordataires.
On donnera les références de cette brochure dans quelques instants, chers auditeurs, ne harcelez pas nos téléphonistes bénévoles. On vous donnera les références dans quelques moments.
En plus, ça occupe le téléphone pendant ce temps-là, les autres peuvent pas continuer à m'insulter.
Non, Serge, puisque vous dites ça, vous êtes revenu à l'instant avec une brassée de messages de soutien. Il y a quand même plusieurs dizaines d'auditeurs qui vous remercient et qui vous approuvent.
Bon, on va effectivement donner les coordonnées de la brochure, enfin de Jean Vallier, mais je voudrais revenir sur cette histoire de messages. Parce que c'est assez intéressant dans la mesure où on voit... Moi, je suis fasciné par le fonctionnement de la messagerie de Radio Courtoisie. Parce que au début, je n'étais pas du tout d'accord avec Jean. Je pensais qu'il fallait donner la parole aux auditeurs en direct. Et Jean Ferré disait non, il faut inscrire des messages et les lire à l'antenne. Or, j'avais l'exemple des radios comme Monte Carlo, comme où les gens interviennent, enfin RMC, où les gens interviennent en direct à l'antenne, et je trouvais que c'était dommage de ne pas profiter de ça. Mais en fait, il avait raison, une fois de plus, parce que il y a parmi les gens qui prétendent être des auditeurs, il y a des provocateurs, mais ça c'est évident. Bon, et mais seulement dans notre milieu, les provocateurs, ça prend des dimensions délirantes. Et il y a aussi des gens donc qui sont visiblement internés, ce qui prouve d'ailleurs que dans les établissements d'internement psychiatrique, on laisse écouter la radio. Par exemple, là, je reçois un message.
C'est le troisième de ce monsieur.
Il a un fax, en plus. Alors, je vais le lire parce que je vais d'abord passer les injures qui ne sont pas destinées aux personnes présentes, mais « Ferme ta gueule, mot gendre, tu vas te faire virer, la fausse droite, c'est la radio des gaullistes, c'est nouveau, c'est là. Voilà. Demande donc à Beketch combien il touche de commission sur le livre. » Beketch vendu au Trotskar et aux gaullistes, ça ne surprend que les imbéciles. Il y a longtemps que les gens intelligents avaient compris. Hein? Voilà. Alors, il faut prendre sa tisane maintenant, puis il faut aller se coucher. Hein? C'est l'heure, il est tard.
Ouais, puis trois fax d'injures dans les mêmes termes en une demi-heure, c'est cher, c'est fatigant.
Serge de Beketch, il y a tellement de gens intéressants à inviter que l'on comprend plus pourquoi vous perdez votre temps avec Monsieur Guéna. Suggestion pour les invitations. Monsieur Hervé de Ryssen, qui s'appelle pas de Ryssen d'ailleurs. Les espérances planétariennes, Pierre Vial, la revue Terre et Peuple. Oui, mais j'ai déjà reçu Pierre Vial. Monsieur Ryssen, je crois, n'a pas très envie de venir dans mon émission, autant que je sache. Quant à Pierre Vial, oui, je l'ai reçu, mais je suis pas le porte-flambeau de Terre et Peuple. Je ne suis pas le porte-parole de... D'ailleurs, je suis le porte-parole de personne, sinon de moi-même. Voilà. Donc, je veux dire que, pour tout vous dire, puisque vous voulez absolument que je sois sincère, eh ben, je vais être sincère. Monsieur Guénin, ça m'intéressait de l'inviter parce que j'ai trouvé son livre bien fait et intéressant, et que dans le fatras, le merdier invraisemblable de l'édition aujourd'hui, où il n'y a rien qu'on puisse offrir aux enfants, là il y a au moins un bouquin qui est bien fait, qui est un bon résumé de l'histoire de France, fait par quelqu'un qui aime son pays. Bon, évidemment, je suis pas d'accord avec Guénin, je crois qu'il l'a bien compris.
Il n'est pas d'accord avec nous, et le misérable.
Pas, ça tombe bien, il n'est pas d'accord avec moi non plus. Donc, en ce qui concerne les autres, je ne suis pas le lieu de réunion de par exemple des païens. Hein, mon émission n'est pas le rendez-vous des païens. Il m'est arrivé d'en recevoir, mais c'est pas mon objectif essentiel dans la vie. Donc je reçois les gens que j'ai envie de recevoir, comme j'ai envie de les recevoir, et comme je fais ça bénévolement, je vois vraiment pas pourquoi je m'en priverais.
Serge, on a démasqué un autre traître, enfin un auditeur nous signale un autre traître. Il s'agit de Bernard Anthony qui roule pour Charlie Hebdo.
C'est le pire, lui. Alors,
l'auditeur nous dit, je n'irai pas à cette manifestation, vous savez, le vendredi 24 à 18h devant l'ambassade du Danemark, 77 avenue Marceau à Paris. Il n'ira pas car il ne veut pas cautionner Charlie Hebdo, ni, je suppose, donc Bernard Anthony, Claude Reichmann et Olivier Pichon. Je veux qu'on respecte ma religion catholique et donc je respecte celle des autres.
Mais ça veut rien, enfin, pardonnez-moi de le dire, ça veut rien dire. Les religions respectables, il y en a qui le sont pas, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus sur les religions qui sont pas respectables, vous lisez le dernier numéro du Libre Journal, vous serez pas déçu. Moi, je considère quand même, pour dire les choses clairement, que une religion qui consacre, un bouquin qui s'appelle Comment vivre, comment être un bon musulman, hein, et qui consacre 54 pages, ou je sais plus combien, je veux dire exactement, 150 articles qui décrivent les conditions préalables du lavage rituel valide ou invalide. 87 commandements organisant les relations avec les défunts. Comment on doit toucher un cadavre, dans quelle direction il faut le poser, est-ce qu'il faut le poser par terre, sur la tête, sous la table. Bon,
il n'est pas valide de se laver le cou, vous avez remarqué, Serge, ça explique bien
des
choses.
Ou qui explique que si on se lave trois fois les mains avant de prier, la prière ne vaut rien. Ou qui dit... Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut pas être vu. Il est aussi recommandé de placer son poids sur son corps, sur le pied gauche, et en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais une religion qui vous explique comment on va aux chiottes, il y a quand même des limites, quoi.
Hein. Ah ben, vous roulez pour Charlie Hebdo, c'est clair.
Et qui vous dit, pendant l'émission des déjections Alvin, lorsqu'on fait ses besoins naturels, on ne doit être ni de face, ni de dos dans la direction de la Sainte Kaaba, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres pour tout autre cas de force majeure. Il est haram, c'est-à-dire interdit de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants: les impasses sans autorisation des riverains, dans la propriété de quelqu'un qui n'a pas donné son autorisation, dans un endroit réservé à un public particulier, école, hôtel, orphelinat, et dans les cimetières des croyants. Mais cimetière des incroyants, vous pouvez y aller, ça gêne personne. Hein, et puis, on vous explique que, naturellement, il est détestable de faire ses besoins naturels contre la direction du vent. Non mais franchement, attendez. Où on est là? Il faut respecter ça. C'est pas croyable.
Alors la suite
est... On m'engueule parce que je reçois un gaulliste et on voudrait que je respecte une religion qui dit...
La suite, il y en a deux pages très denses, et dans le Libre Journal 371 qui est paru aujourd'hui. On en reparlera peut-être tout à l'heure avant la fin de l'heure et demie, mais je signale tout de suite qu'on peut se procurer ça et d'autres articles délectables en envoyant un carnet de timbre ou 5 euros, 4 places France Liste. 75-010 Paris.
Et alors, un petit mot qui n'a rien à voir, mais je veux quand même le dire, parce que je suis une lettre d'un auditeur absolument charmant qui me dit que... Enfin, qui me montre qu'il a trouvé un terme. Je sais que maintenant, la mode, c'est de dire professeur, madame la professeure, madame la procureure. Alors, il dit, mais les sapeurs, comment on peut pas faire madame la sapeur? Non, alors lui, il a inventé la saprice pompière.
Est-ce que vous vous souvenez, Serge, de cette autre horrible gaulliste que nous avons reçue il y a quelques mois, madame Garraud? Et elle était interrogée par le technicien qui voulait remplir sa fiche d'émission et qui lui demande un titre. Et elle dit, ancien député européen. Et puis elle se retourne brusquement vers lui, elle dit, n'écrivez pas ancienne députée européenne, n'est-ce pas? Donc la plupart des directrices et des ministres sérieuses refusent la féminisation de leur nom, aux grandes dames de Monsieur Jospin, qui a prétendu l'imposer en son temps, mais il n'est plus en position, je crois.
Non, plus, pas pour l'instant. Je crois que c'est, j'espère que c'est pour un moment. Donc, monsieur.
Je donne quelques renseignements sur la journée.
Monsieur Hollande, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais j'étais obligé quand même.
Alors, je reviens donc à l'occasion de cette journée. Donc, Géry Ghissel a été tué donc le 6 mars 1906. Donc, on organise une journée de commémoration pour le centenaire de son assassinat, donc le dimanche 5 mars 2006, qui aura donc lieu à Boskep. Nous avons eu de l'ordinaire du lieu, donc Monseigneur de Foix, l'autorisation de faire célébrer la messe traditionnelle dans l'église du village. Donc ça, je crois que c'est
ça se passe dans le Nord, Alors, du Nord, sortez vos agendas.
Voilà, donc ça se passe dans le Nord, c'est au pied du Mont Deca, c'est 40 km au nord de l'île. Donc à 11h, il y aura la messe. Ensuite, il y a la possibilité, nous avons réservé la salle des fêtes, donc de déjeuner sur place. Donc soit on apporte son repas tiré du sac, soit il y aura également des plateaux repas en vente.
Comme un ramard, repas tiré du c'est sac.
Alors, ça voilà, vous va pas.
Bien, la preuve que vous êtes
venu au Gaulis, halal
nourri par les gaullistes.
Ah oui.
Et repas tiré du sac.
C'est pas halal, quoi.
À 14h30, donc, nous aurons une procession vers le cimetière, puisque le cimetière, tout ça, c'est un tout petit village, Boskep, hein, tout ça, c'est à 200 mètres les uns des autres. Et nous aurons donc un certain nombre de discours sur la tombe de Géry Ghissel, puisqu'elle est toujours dans le cimetière, et en particulier une allocution du père Argouache. Bon, j'espère, si la providence est bonne, que nous pourrons avoir une participation ecclésiastique, je dirais, à la fois diverse et nombreuse autour de cet événement.
C'est le régional de l'État.
Alors le père Argouache, oui, il est à 80 km de là, c'est le régional de l'étape. Je crois, en tout cas, c'est le sens des démarches que j'ai pu avoir vis-à-vis d'un certain nombre de prêtres, de religieux, d'autorités locales. Je crois que si on peut pas, alors ça c'est les conférences de l'après-midi, mais sur cette partie, sur cet hommage rendu à Géry Ghissel, j'ai insisté auprès d'un certain nombre de prêtres sur le fait que un siècle plus tard, quels que soient les choix qu'ont fait les uns et les autres, on doit pouvoir se retrouver sur la tombe de ceux qui sont morts pour la défense de l'Église, quoi. Et ça me paraît un point important. Et donc l'après-midi, nous aurons donc eu un aspect spirituel, la messe, la cérémonie au cimetière, un aspect convivial, nous l'espérons, avec les plateaux repas. Alors on va un petit peu l'après-midi travailler, puisqu'il y aura trois conférences. Une conférence de Jean Vallier, donc que vous avez entendu il y a quelques instants, qui sera l'évocation historique, en fait, de cet événement. Ensuite, Jean Madiran nous fait l'honneur de nous rejoindre pour parler de la laïcité dans l'Église. Donc il va reprendre une partie de ce qu'il a développé dans ses livres. Et quant à moi, je ferai une conclusion où j'essaierai un petit peu d'étudier la question de christianisme et laïcité, rappeler les principes des uns et des autres et en quoi la conception qu'on cherche à nous vendre aujourd'hui de la laïcité n'a rien à voir avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Alors bien sûr, tout le monde est invité à participer à cette journée. C'est une grande première, comme c'est toutes les grandes premières. Bon, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, hein. Il y aura de la place pour tout le monde. Et puis ce sera également l'occasion pour nous de sortir une petite brochure, hein, puisque Jean Vallier donc a écrit une brochure là qui fera 100 pages à peu près, hein, qui reprend ces événements. Et nous avons mis en annexe trois documents, parce que je crois que c'est un événement historique. D'une part, les interventions de l'abbé Lemire à l'Assemblée nationale après le décès de Géry Ghissel. Ensuite, le sermon qui a été fait par le vicaire général des Flandres, qui était Monseigneur Lobedet, et puis également un très beau texte, et puis également le sermon qu'avait fait le député Plichon sur la tombe de Géry Ghissel. Alors vous pouvez venir à cette journée, vous y associer, vous pouvez également souhaiter acquérir ce document. Alors il est disponible, cette brochure est disponible au prix de 10 euros plus 2 euros de port, donc à l'adresse habituelle de Renaissance Catholique, que je me permets de vous rappeler. Donc Renaissance Catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux. Et puis alors, nous avons une adresse mail, hein, rcatholique@wanadoo.fr. Je l'ai redit, je le dis en conclusion, comme je l'avais dit en introduction, c'est à mon sens le seul événement de commémoration de ces officiers qui ont démissionné, de ces prêtres et de ces laïcs qui ont été emprisonnés pour la défense de l'Église. Donc je crois qu'il faut marquer le coup.
Merci Pierre Mougin.
Merci Jean-Pierre. Il est imperturbable. On fait les fous autour de lui et tout. Il va son chemin. C'est vraiment le routier. Il avance.
Il faut dire merci à Jean Vallier aussi.
Ah ben Jean Vallier.
Vous avez déjà des parents?
Comment?
Vous avez déjà des parents?
Ben oui.
Parce qu'autrement, je vous aurais adopté, parce que un garçon intelligent comme ça...
Un rose précieux envahit son front.
Non, mais c'est formidable, ce jeune homme.
Voilà, il nous reste quelques minutes, Serge, pour répéter les annonces, toutes plus importantes les unes que les autres, à savoir...
Attends, je voudrais quand même annoncer une nouvelle.
Ah oui.
En deux mots.
Vous n'êtes pas seulement trotskar.
Je ne suis pas seulement vendu au trotskar et au gaulliste, mais je viens de rejoindre le Volinsnolins, quand même, hein, une nuance. Voilà, le camp américano-sioniste.
Bravo, félicitations, mais disons,
bon, mais ça, je veux
vous devez rouler sur l'or.
Je tiens à le signaler quand même à mes amis du Mouras, de la LICRA, des Bnaïbrit... lieu découvert à marée basse. J'ai rejoint un camarade, le camp américano-sioniste. Alors lâchez-moi un peu la grappe.
Alto
si vous avez des avocats à faire travailler.
Et envoyez les chèques. Envoyez les chèques.
En dollars.
Si possible.
Le rêve.
Alors, ceux qui refusent la loi islamique en France manifestent jeudi 23 février avec les distributeurs de soupe aux cochons de Paris, Nice, Strasbourg, Bruxelles et Anvers à 19h30 précise, donc demain jeudi 23 février, devant la mutualité. J'y serai bien entendu et je leur donne rendez-vous avec le Libre Journal sur le ventre.
En plus, vous pouvez y aller en toute tranquillité, vous êtes sûr que vous ne rencontrerez pas Yves Guéna?
Il a promis de pas y aller. Le lendemain, vendredi 24 février à 18h, les mêmes opposants, le Libre Journal d'ailleurs vous raconte dans un reportage orné de belles photographies que les opposants étaient, les contre-manifestants étaient deux le 11 février face à la manifestation de 7000 islamistes en plein Paris. Alors on espère qu'ils seront un peu plus nombreux vendredi 24 février à 18h devant l'ambassade du Danemark à Paris. 77 avenue Marceau, je pense qu'il y a un métro, c'est métro Kléber, étoile, quelque chose comme ça. Et c'est notamment organisé par notre ami Bernard Anthony qui va nous confirmer dans quelques instants qu'il roule pour Charlie Hebdo, ou peut-être pas. Je lui en laisse la responsabilité. On a le docteur d'or et d'argent, c'est ça Serge qu'il faut dire maintenant.
Il est en colère. Hein,
le 25. Oh oui, il est tout rouge. Oh, il va exploser au micro dans deux minutes. Le docteur d'or organise une manifestation avec SOS Tout Petit le 25 février à 14h30, place Saint-Michel. Et quelle est l'annonce que j'ai flanquée par terre? Non, elle est pas par terre, elle est là. Le docteur Niem, le jeudi 2 mars à 19h à la maison Saint-François-Xavier, 7 rue de Poitiers, 7507, effet de la musique sur la maturation cérébrale des enfants. Voilà, alors la journée Jacques Bainville, je laisse également à Bernard Anthony le soin de donner le rendez-vous, et il me reste environ une minute pour signaler que le numéro 371 du Libre Journal est sorti des presses aujourd'hui. Alors naturellement, n'en déplaise à Monsieur Guéna, il comporte notre adieu solennel à Christian de Lamazière. Alors là, on a fait fort, parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, VSD a publié la nécrologie de Jacques Chirac. Certains ont soupçonné que c'était Claude Chirac, responsable de sa communication, qui avait trouvé là le moyen d'avoir un article favorable. Nous, on a fait beaucoup mieux parce que vous co-signez la nécrologie de Christian de Lamazière avec Christian de Lamazière.
Ouais.
C'est-à-dire que vous présentez finalement une nécrologie signée Christian de Lamazière et à la mémoire de Christian de Lamazière.
Alors, je croyais que vous vouliez parler de l'appel de cochon.
L'appel de cochon.
Parce qu'on publie un inédit de Jacques Chirac qui s'appelle l'appel de cochon.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a changé quelques mots à l'appel de cochon.
Et ça marche.
Et c'est signé Jacques Chirac avec un K, et ça marche très bien. C'est surtout un numéro spécial Bourgogne. J'ai rencontré un lecteur et un auditeur de Dijon hier qui n'avait pas son carnet de chèques malheureusement. J'espère qu'il l'a retrouvé et qu'il va s'abonner, puisque nous consacrons 3 pleines pages à la Bourgogne, avec notamment un reportage tout frais, très vivant, très brillant, de notre divin marquis, aux Hospices de Beaune, et également dans la magnifique exposition des trésors des cathédrales d'Europe.
Il est à l'opéra en ce moment, le divin marquis. J'explique son absence.
Vous avez un billet d'excuse de ses parents, et pour Victoria aussi.
Voilà, Victoria n'est pas avec le divin marquis, elle est chez elle, elle se repose.
Bon. Alors, les règles coraniques au petit coin, vous venez d'en parler. Nous démontrons que les amendes pour excès de vitesse sont illégales, et c'est tout à fait sérieux.
Formidable. Je vous conseille de lire ce numéro, parce qu'il y a un papier qui explique que les amendes pour excès de vitesse n'ont aucun caractère légal. Vous pouvez les faire sauter comme vous voulez. Il suffit de prendre les lois françaises au pied de la lettre. Et ils l'ont dans l'os.
Alors, on n'est pas seulement allé se promener en Bourgogne. On a une correspondance de Goa, qui est un ancien comptoir portugais en Inde, puisqu'il en est question dans l'actualité, qu'on appelait la Rome de l'Orient parce qu'elle était criblée d'églises qui sont aujourd'hui vides. On a une correspondance de Buenos Aires de notre ami Nicolas Bonal, et cette fois j'ai tout compris, il n'y a pas que Gollnisch qui va comprendre et apprécier. Bon, il y a 24 pages que je ne peux pas toutes énumérer. On commande ce numéro 371 contre un carnet de timbres ou 5 euros. On se promène gratuitement dans la collection du journal sur le site internet francecourtoise.info, et on s'abonne 110 euros pour un an à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75-010 Paris.
Merci Patrick, bonne semaine, que Dieu nous garde. Je laisse la parole à Bernard Anthony qui va pouvoir s'expliquer maintenant sur ses accointances
suspectes.
Amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Bernard Anthony au micro. Je remercie Serge de Bekech, comme d'ordinaire, de son hospitalité. Et j'ai entendu que l'on parlait de moi dans la première partie de cette émission. Je n'ai pas trop compris et j'essaierai tout à l'heure de répondre à ce qui semble être un quiproquo ou incompréhension. Je ne sais exactement. Mais en tout cas, pour ne pas oublier, effectivement, le camarade Goffman a eu raison de parler de la journée Jacques Bainville, qui aura lieu le samedi 25 février au Centre Charlier. C'est une journée importante organisée par mon ami Richard Haddad, le patron des éditions Godefroy de Bouillon. Et c'est une journée qui commencera à 10h30, le début des travaux exactement à 11h, avec Christophe Dickès, docteur en histoire, journaliste à l'Académie des sciences politiques et morales, auteur d'une biographie sur Jacques Bainville. Et je crois qu'il est important de connaître la pensée de Jacques Bainville. Ce n'est pas seulement une commémoration, mais Bainville, c'est une méthode. C'est la méthode d'analyse des événements qui lui avait permis d'anticiper sur ce que seraient les conséquences fâcheuses de la mauvaise paix, du mauvais traité de Versailles et des traités de Saint-Germain. Donc Jacques Bainville est un des historiens les plus clairs, un penseur politique absolument remarquable. Donc Richard Haddad fait venir pour parler de lui Christophe Dittès, aussi notre ami Pierre Hillard, qui est un homme admirable, universitaire, historien, qui a écrit pour moi les meilleurs livres que je connais sur la question européenne, minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions et la décomposition des nations européennes. Pierre Hillard montre comment l'Europe actuelle est en train de balkaniser nos nations, de mettre en place tous les ingrédients pour que nous ayons un jour des Kosovo, peut-être à Marseille, peut-être à Roubaix. Et je vous conseille donc de découvrir effectivement la claire pensée de Pierre Hillard, qui d'ailleurs est interrogé, Cécile.
Effectivement, j'ai pu rencontrer Pierre Hillard pas plus tard qu'hier soir, et donc dans le prochain numéro de Reconquête, vous pourrez découvrir tout le travail qu'a fait cette universitaire qui vient d'être nommée docteur en sciences politiques, et vous pourrez lire dans Reconquête tout le travail de recherche, de recoupement pour comprendre ce que les Allemands et ce que les Européens au sein de l'Union européenne nous mettent en place malgré les votes qu'on demande, les votes du peuple français et du peuple hollandais qui ont refusé la Constitution. Pierre Hillard montre qu'en fait tout est déjà prévu et que la Constitution européenne est prévue pour être appliquée en Europe.
Alors, vous l'avez compris, chers auditeurs, je suis ce soir avec Cécile Montmirail et aussi Jeanne Smith, directrice du quotidien présent, le quotidien indispensable pour la réplique au jour le jour. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Bernard et merci de me recevoir une fois de plus dans votre émission de la réplique parce que nous faisons ici quelque chose de très actuel, de très réactif. C'est un peu ce qu'essaie de faire présent aussi. Donc on s'y trouve bien. Comme toujours. Bernard, on entame tout de suite le vif.
Oui, je voulais juste dire, eh bien, on va entamer le vif ensuite, mais il y a aussi Pierre Pujot, la journée Jacques-Bainville. Alors, quand même, je le redis, samedi 25 février, 10h30, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain. Et il y aura aussi des livres que l'on pourra acquérir. Et maintenant, Jeanne, je suis à vous parce que je crois que vous vouliez me poser des questions ce soir dans le cadre de la réplique.
Quelques questions d'abord d'ordre politique parce qu'il y a quand même une certaine confusion qui règne, dirons-nous, dans nos milieux et en particulier, nous savons que vous avez pris vos distances avec le FN ou peut-être le FN a-t-il pris ses distances avec vous. Et à l'heure actuelle, je constate chez nos lecteurs de présent certaines interrogations par rapport à la ligne du front, notamment en ce qui concerne l'islam. Et l'islam, c'est quand même la question du jour. Alors vous, Bernard Anthony, où en êtes-vous par rapport au Front National?
Voilà. Je vous remercie et je crois que je vais pouvoir m'expliquer. Il fallait bien le faire un jour dans le cadre de cette émission. Je vais pouvoir m'expliquer, ne choquant d'ailleurs personne, je crois, ou très peu, de mes amis du Front National. J'insiste tout de suite, de mes amis du Front National. Voilà. On le sait, je ne suis peut-être pas un homme très facile, et je tiens d'abord au combat des idées. J'ai été pendant longtemps un compagnon de Jean-Marie Le Pen, pour lequel j'ai respect, pour lequel j'ai eu grande amitié. Ça ne s'efface pas comme cela, même quand il y a du contentieux. Je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe que l'on a pu boire. Autour de Jean-Marie Le Pen, j'ai connu la ferveur, l'amitié, le combat. On n'était pas toujours d'accord, mais je n'ai que des bons souvenirs. Et j'ai quelquefois dit à Jean-Marie Le Pen, il n'y a sur toi que des mauvais livres, soit des livres d'adversaires haineux, soit des livres d'agiographie. Moi, peut-être un jour, j'écrirai un livre et je ne procéderai bien sûr à rien qui soit injurieux pour Jean-Marie Le Pen, même si quelquefois j'ai regretté ces débordements à lui à l'égard de quelques êtres qui me sont chers. Alors, voilà, que s'est-il passé? Eh bien, lorsque le Front National a été confronté à la grave crise due donc à la scission avec les maigrettistes, j'ai pris des positions très claires, sans jamais d'ailleurs pratiquer, je crois, la moindre injure contre les maigrettistes. J'étais persuadé à l'époque qu'il fallait des réformes, mais je n'admettais pas, au fond, ce que j'ai appelé, que j'appelle toujours, un complot. Ça avait pris la forme de complot, et j'ai été, je crois, un défenseur pied à pied de Jean-Marie Le Pen. Les anciens du Front qui m'écoutent le savent bien. Ils m'ont vu à l'œuvre à l'université de Toulon où ça n'était pas facile pour moi. Et donc je ne regrette rien de ce que j'ai fait, même si encore une fois je voyais partir avec Maigret des bons camarades de combat que j'ai revus. On ne s'est pas fâchés parce que je pense qu'il faut savoir surmonter des crises et que l'unité du mouvement national doit être toujours recherchée. Mais enfin, voilà. Donc, c'était terminé, la crise maigrettiste. Et ensuite, ma foi, j'ai perdu ma place au Parlement européen. Je n'en ai pas fait une dépression nerveuse. Je n'avais pas attendu d'être élu député pour gagner convenablement ma vie. Je le rappelle. J'étais le directeur des relations humaines d'une grande entreprise. Et donc, ma foi, j'ai repris une vie de militant actif du Front National, sans être un élu. je n'avais pas apprécié, je dois le dire, la présence de Charles de Gaulle, parce que je disais quelquefois en souriant, j'ai commencé ma vie politique en étant mis devant les tribunaux à l'âge de 16 ans et demi par le grand-père, et je vais peut-être finir ma carrière politique à cause du petit-fils. Dieu merci, le petit-fils a été moins nocif que le grand-père, parce que je crois qu'il n'a pas fait grand-chose, mais je crois qu'il nous a fait beaucoup de mal, que nous avons perdu beaucoup de voix, et c'est ainsi que je n'ai pas été réélu, mais tant pis. La fois d'après, j'étais volontiers candidat. Pourquoi ? Parce que je pensais faire de mon mandat européen beaucoup de choses. J'avais circulé sur tous les continents, et d'ailleurs, je renvoie aux éloges enregistrés que faisait de moi Jean-Marie Le Pen. Alors j'étais candidat, c'est vrai. Et j'ai été déçu qu'il opte entre deux pour l'autre. Soyons francs, il y avait une ligne Jean-Claude Martinez, une ligne Bernard Anthony. Jean-Marie Le Pen a choisi la ligne Jean-Claude Martinez.
Peut-être, Bernard, pourriez-vous nous expliquer, mais surtout pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette différence.
Oui, j'y viendrai. Donc, à cette époque-là, eh bien, j'ai été chagriné surtout d'apprendre le choix de Jean-Marie Le Pen par la Dépêche du Midi. Voilà, vieux compagnon, ayant lutté avec lui pied à pied, fidèlement, tout en défendant mes idées. Alors, il est vrai que j'avais pris des positions qui n'étaient pas celles de sa fille, contre laquelle je n'ai rien. Marine Le Pen est une personne estimable. Je n'ai pas de contentieux personnel du tout avec elle. Je lui reconnais volontiers des qualités, mais elle avait pris des positions pour le maintien de la loi Veil, alors que moi, je suis pour le remplacement de la loi Veil. Elle avait pris des positions croyant à l'islam français. Je pense qu'elle est en train d'évoluer, tant mieux. Moi, je ne crois pas à ce concept. Donc, j'avais manifesté ma fidélité au programme du Front National, que je signe toujours volontiers des deux mains, sinon des trois. Bon, on a choisi de mettre Jean-Claude Martinez. J'aurais mieux aimé que cela se passe d'une manière différente. Voilà par rapport au front. Et puis ensuite, alors là, quelle n'a pas été ma tristesse ? Je le dis aujourd'hui parce que j'attends. J'ai démissionné, il est vrai, du bureau politique du Front National pour manifester le fait que je souhaitais qu'il y ait des débats, que je souhaitais donc une autre forme d'adaptation à la situation politique, de modernisation du fonctionnement du Front National. Mais surtout, j'ai été très attristé lorsque j'ai lu, chose jamais démentie, entre guillemets, dans Libération, la confidence de Jean-Marie Le Pen à M. Forcari de Libération, qui est un homme qui joue un rôle considérable, on l'informe toujours, et la citation de Jean-Marie Le Pen, deux points ouvrez les guillemets, 11 septembre 2003, après le départ des gens de la Lune, les cathos se sont dit à nous la bonne place. C'était un incroyable aveu. Il y avait donc un complot catho que j'aurais mené, parce que les gens de la Lune, c'était les païens, les maigrettistes, Jean-Marie Le Pen les appelait comme ça. Alors, j'ai appelé Jean-Marie Le Pen à trois reprises. Je lui ai demandé de pouvoir qu'il s'explique sur cela, devant le bureau politique auquel j'avais appartenu quand même pendant près de 20 ans. Il a refusé. Cela m'a fait du mal, parce que je ne suis pas si redoutable. Je lui ai dit, on s'expliquera. Jamais. Et donc là, voilà, je parle publiquement de cela parce que je l'ai écrit quelquefois, faute d'avoir pu m'expliquer, ce qui aurait été loyal, fair play, devant le bureau politique du Front. Suis-je si redoutable pour qu'il ne veuille pas m'affronter ? Je ne suis pas redoutable. Je parle avec conviction, mais toujours avec politesse. Alors, voilà, c'est ainsi que j'ai vu le Front s'éloigner de moi. Mais je suis resté au Front National, j'y suis resté étant même le fondateur pour la deuxième fois de notre institut de formation. La première fois, alors que j'avais fondé l'université du Front National, que j'ai dirigé pendant 19 ans, il m'avait mis sous la houlette de Bruno Maigret. Je lui avais dit, tu fais une imprudence, Jean-Marie. Ensuite, j'ai refondé un institut. Bon, lorsque j'ai démissionné du bureau politique du Front National, volontiers, j'ai démissionné de la présidence tout année restant. Alors, voilà, ensuite, je constate que je n'ai pas été convoqué au Conseil National, dont je fais partie de plein droit, que je n'ai pas été convoqué au Comité Central, qui était lié dit au dernier Conseil national, et j'ai regretté, et c'est ainsi que j'ai employé la formule, le Front national s'éloigne de moi. Cela dit, ça n'est pas tout le Front national, je crois que j'ai dans le Front national des milliers d'amis, et je n'oublierai jamais mon compagnonnage avec Bruno Gollnisch, Karl Lang, qui demeurent des amis très chers. Quand on a les mêmes idées, on peut savoir surmonter ce qu'on peut appeler des péripéties dont je ne parlerai plus. Mais voilà, je me suis expliqué sur le Front National. J'espère qu'un jour, je le lui disais encore à midi, je me retrouverai côte à côte dans le combat pour notre patrie avec Bruno Gollnisch, Karl Lang et 50 autres que je pourrais citer dans la foulée qui sont tous dans mon cœur.
Il est vrai, Bernard Anthony, que la France est quand même en danger, qu'elle se trouve particulièrement face au danger de l'islam. Et ce ne sont pas les manœuvres politiques qui aujourd'hui sont importantes. Cela dit, on vous prête, comme à Jacques Bompard, qui lui est passé au MPF, des contacts avec Philippe de Villiers. Est-ce vrai? Comment vous situez-vous par rapport à Philippe de Villiers, qui aujourd'hui a un langage sur l'islam dont il faut bien dire qu'il est clair, mais ça n'est pas le tout. Dites-nous un peu où vous en êtes,
oui,
si vous
alors,
voulez bien.
Moi, il faut être très clair, je n'ai pas fait comme Jacques Bompard, je ne suis pas passé au MPF de Philippe de Villiers. J'ai créé, non pas un parti, mais une initiative politique qui s'appelle le Conseil national de la résistance du Pays libre, avec Pierre Bernard, l'ancien député maire de Montfermeil, avec une quarantaine de conseillers régionaux du Front national, avec Serge de Bekech, avec des chefs de groupe, avec une idée, c'est qu'il faut coûte que coûte bâtir la résistance la plus unitaire possible autour d'idées, bien entendu. Alors, c'est sur ces idées, et je répondrai à la question sur Villiers, je vous rassure, c'est sur ces idées que je me bats. Et si vous le permettez, Jeanne, avant de répondre sur la question Villiers, je voudrais dire ce que j'ai développé dans Reconquête, d'ailleurs, et que l'on peut venir prendre au Centre Charlier pour en avoir le texte intégral. Premièrement, une réflexion politique générale. Et je crois, voyez-vous, et là je suis peut-être, sûrement même, en désaccord avec Jean-Marie Le Pen, avec Philippe de Villiers, peut-être avec d'autres, mais rarement dans les conversations avec ceux que je rencontre. À savoir que parmi les fausses bonnes idées du gaullisme. Je me souviens, j'étais encore très jeune, lorsque je critiquais déjà, plus par instinct que par raison, à l'époque, la Ve République. Bien sûr, ce qu'avait fait le général de Gaulle en abandonnant l'Algérie d'une manière aussi ignoble, en laissant l'égorgement des pieds noirs, des harkis, tout ça, je ne l'oublierai jamais. Mais certains de mes amis qui ne digéraient pas le lâchage de l'Algérie me disaient, mais tout de même, le général de Gaulle nous construit le moins mauvais régime possible avec un État qui ressemblera un peu à la monarchie, avec un président de la République au-dessus des groupes de pression. Eh bien, regardons ce qu'il en est de cette idée aujourd'hui. Cette idée est tragique. C'est que, à peine élu, on prépare la réélection. Et en plus, avec la réduction du septennat au quinquennat, on est toujours en élection présidentielle. Et ça, je vais vous dire, c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse qu'à cela. Et quand on ne s'intéresse qu'à cela, on ne construit pas à côté la résistance nationale. Hein? À peine l'élection a-t-elle lieu, on se repose un peu et on prépare la nouvelle élection.
Bernard Anthony, tout à l'heure, nous parlerons de la démocratie à la mongole.
Voilà,
on va s'amuser un peu.
Volontiers. Donc, sur le fond, voilà ma première idée. Je suis triste de ce que des partis, comme le Front National, qui est devenu un parti, je le préférais comme un mouvement, dont ne soit axé que sur la présidentielle, parce que ça ne permet pas de faire autre chose à côté. Donc, c'est le premier point. Alors, pour ce qui est de ma responsabilité, moi, je me bats avec mes amis autour de cette exigence pour soutenir des candidats. Ça sera vrai le moment venu au présidentiel. Bien sûr, je m'en désintéresse pas. Je vais pas dire que je m'en fous. On sait très bien l'importance que ça a là. Mais enfin, je ne soutiendrai au présidentiel et mes amis, que, et aux législatives de même, que des candidats qui seront d'accord sur les points suivants. Je les résume ici. Premièrement, le remplacement de la loi Veil par une loi de respect de la vie. Deuxièmement, l'abolition de la loi totalitaire Rocard-Guesso. Et je ne m'étendrai pas sur cela, c'est la loi monstrueuse du soi-disant antiracisme. Troisièmement, la suppression du Conseil français du culte musulman et de toute autre institution étatique communautariste. Quatrièmement, l'affirmation de la souveraineté nationale, la sortie de cette Europe-là, le refus de l'entrée de la Turquie dans l'actuelle Union européenne, comme demain, Jeanne, dans la nouvelle Europe des patries, qu'il faudra bien construire. La libération de l'enseignement par la réforme du chèque scolaire, la modification de la loi sur la représentativité syndicale, et enfin, le rétablissement de la peine de mort pour les auteurs des crimes les plus abominables, pour lesquels je milite d'une manière consciente, avec de grands avocats tels que Jean-Baptiste Biagi, tels que Georges-Paul Wadner, avec tous ceux qui ne peuvent pas, qui, dans la ligne du père Brut Berger, savent bien qu'il y a un châtiment, le seul châtiment proportionné à la monstruosité de crimes tels que les tortures des petites filles d'Alsace ou tels que la torture de ce malheureux jeune juif. Bon, mais là, je suis pour la peine de mort. Voilà les 7 points. Alors, je vous réponds maintenant.
Oui, dites-moi juste en un mot, alors, ces 7 points, vous les retrouvez au FN ou vous ne les y retrouvez plus?
Je pense que la plupart des candidats du FN signeront ces 7 points. Je suis persuadé que mes amis Bruno Gollnisch et 100 conseillers régionaux que je connais sont sur cette ligne-là.
Et je crois même pouvoir dire que de plus en plus de Français sont sur cette ligne.
Alors, ensuite, vous me demandez mes relations. Je suis un homme libre. Moi,
Avec Philippe de Villiers.
Et j'y viens. Je dirige 3 choses. La Griffe. Dans la Griffe, nous ne nous occupons que de réagir conformément à l'objet social de la Griffe dans le cadre de la loi dite antiraciste. Nous allons donc devant les tribunaux pour défendre l'identité française et chrétienne et essayer de nous battre face donc à ce seul racisme qui n'est jamais combattu, le racisme anti-français, anti-chrétien. Mais là, nous ne nous occupons pas des débats politique. Les amis de la Griffe qui me rencontrent partout, vous voyez, j'ai 7 réunions, Toulon, Lille, Carcassonne, Nice, Dijon, Pau, ça doit faire Montpellier, ça doit en faire 8 ou 10.
Vous me permettez une incise, oui. La Griffe, il faut, je rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne le sauraient pas encore, la Griffe c'est l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne que vous avez fondée, que vous présidez et qui est un outil merveilleux pour la défense de l'identité chrétienne. Vous trouvez la Griffe au 70 boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement.
Alors,
à Paris.
Je suis le responsable et le comptable de cette organisation où je suis, dont je suis le président fondateur, réélu mais par des gens qui surveillent aussi mon travail, et je ne m'y occupe pas de Jean-Marie Le Pen ou de Philippe de Villiers, parce que la vérité, c'est qu'à la Griffe, il y a beaucoup d'adhérents du Front National, et j'espère qu'il y en aura encore plus. Il y a des adhérents du MPF de Philippe de Villiers, et j'espère qu'il y en aura encore plus. Il y a des royalistes comme ceux de mon ami Jacques Trémollet de Villers, grand avocat, s'il en est, et je souhaite qu'il y en ait encore plus, et je m'interdis, dans le cadre de la Griffe, de parler d'autre chose que de l'identité française et chrétienne menacée, et c'est déjà beaucoup. Pour ce qui est de Chrétienté Solidarité, qui est au fond mon noyau fondateur. Là aussi, ce qui nous importe, c'est de regarder ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, par exemple, c'est de regarder ce qui se passe au Liban, c'est d'être en liaison avec nos amis polonais, et nous ne nous occupons pas, au fond, de beaucoup des affaires intérieures. Alors, avec le Pays Libre, je me bats autour des points fondamentaux et bien sûr, je ne m'interdis de rencontrer personne. Je suis un homme libre, je rencontre Philippe de Villiers comme je rencontre Bruno Gollnisch, comme j'ai rencontré dernièrement un député de l'UMP que je ne citerai pas pour ne pas le gêner, il est quand même venu me voir, il m'avait connu au Conseil Régional, il m'a dit « J'ai lu ton livre sur la maçonnerie, ça m'éclaire, j'y comprenais rien, vous voyez, ça arrive » et il me dit « Mais je découvre par qui je suis entouré, ben je lui dis franchis le pas, parce que tu vas en découvrir d'autres. Donc, quand un député UMP demande à me rencontrer, je le rencontre bien volontiers. Voilà. Alors, pour ce qui est de Philippe de Villiers, ma position est donc claire. Donc, il a, quand il prend des positions claires, courageuses, je le dis, comme ses propos sur l'islam, je suis tout autant avec lui que je le suis à Strasbourg avec mes amis Bender et Codrens pour les conseillers régionaux du FN d'Alsace et pour lesquels je suis allé témoigner. De même que je suis évidemment totalement aux côtés de Bruno Gollnisch, ignominieusement poursuivi par la police de la pensée, par la Gestapo universitaire, pour alors qu'il n'a rien dit sinon ce que disent aujourd'hui 19 intellectuels de gauche qui s'aperçoivent enfin de la monstruosité de la loi Guesso. Voilà donc quelles sont mes relations, et j'ajouterai pour terminer, Jeanne, et je crois que j'ai tout dit sur la conception que j'ai du mouvement national, que je souhaite qu'un jour, si cela était possible, que les forces dont qui peuvent être issues, donc que les forces dont nous venons de parler, puissent s'accorder pour essayer de faire avancer la résistance nationale dans ce pays.
Alors Bernard, des auditeurs nous font parvenir quelques questions. Donc en voici une. Vous semblez dire que Le Pen, père et fille, ont des complaisances pour l'islam. Je ne suis pas au courant, nous dit cet auditeur. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, vos propos ?
Non, je n'ai pas employé cette expression-là, ou semblait dire. J'ai évoqué effectivement ma réaction un jour devant un propos qui était peut-être trop circonstanciel. Je considère en fait qu'effectivement sur ce plan-là, je ne crois pas qu'il y ait une suffisante lisibilité du discours chez Jean-Marie Le Pen. C'est une de nos nuances. Cela est peut-être vrai. Je n'ai pas employé le mot de complaisance. Mais je regrette un peu ce que d'autres notent. C'était dans le Figaro. Mais le Figaro n'est pas le journal qui me dicte mon comportement. Mais certains ont bien noté, effectivement, une nuance pour le moins de position. Par rapport à moi, certainement, en effet.
Alors, un autre auditeur, un monsieur qui s'appelle Vincent Perra, nous dit, vous pensez que pensez-vous d'autres déclarations de Jean-Marie Le Pen, selon lesquelles il affirmait que les manifestations de novembre n'étaient pas d'ordre ethnique, mais uniquement d'ordre social?
Oui, ben là, je suis en désaccord, voilà, cela est clair, parce que il y avait, je pense que c'était, bon, alors je sais très bien comment une phrase peut être réductrice, mais ce n'est pas mon point de vue, parce que je pense qu'effectivement, il y avait une dimension ethnique. Ce n'était peut-être pas que cela, mais elle y était, cette dimension. Je n'ai pas vu, à l'effet, des meutes, par exemple, menées par des gens de race asiatique. C'est dire donc qu'il y avait certaines ethnies, peut-être, et d'autres, pas du tout. Il faudrait donc expliquer cela. Alors, je ne réduis pas les choses à la dimension ethnique. Je sais aussi combien, parce que je regarde les sites internet, c'est mon métier, j'ai écrit un livre, on le trouve au Centre Charlie, de l'islam sans complaisance, je ne pouvais pas ne pas regarder les incitations qui venaient sur de nombreux sites islamiques, et on le sait, cela est analysé. Alors, encore une fois, je n'attaque pas, pour ma part, je ne mets pas dans le même sac tous les musulmans, hein, et je dis toujours combien dans leur individualité, je les respecte. En revanche, l'islam est une idéologie. Je m'en suis souvent expliqué. Tariq Ramadan nous aide, d'ailleurs, il répète sans arrêt, c'est le chouchou des médias, que l'islam rentre difficilement dans l'acception du mot religion, hein, parce que c'est une idéologie totalitaire qui modèle les comportements, et abstraire la réalité islamique de ce qui s'est passé dans les banlieues me paraîtrait pour le moins léger.
Bernard, Anthony, vous êtes en train d'être passé sur le grill, hein, sur Radio Courtoisie.
Mais grillez-moi.
Je vais vous griller encore un peu.
Qui aimerait me griller.
Il y a une chose qu'on ne vous prête pas, c'est de comploter avec Sarkozy.
Ça non.
Alors parlez-nous un peu de Nicolas Sarkozy qui voudrait passer pour un homme fort.
Oui. Alors, parce que une fois que l'on a dit les différences ou les quelques divergences avec les gens de notre famille, hein, qui demeurent, ensuite il faut dire notre formidable opposition au régime et au système. Et je ne suis pas prêt, effectivement. D'abord, j'ai jamais comploté avec personne. Bon, comme je le disais tout à l'heure, même pas à l'intérieur du Front National, parce que j'attends qu'on me fasse la preuve, on n'a jamais pu. Avec personne. Je me bats à ciel ouvert, tout drapeau claquant au vent, comme je l'ai toujours fait. Mais alors, avec Sarkozy, il n'y a aucun risque. Pourquoi ? Parce que Sarkozy, je ne nie pas son savoir-faire. Il parle bien, il est vif, il a de la répartie, et il a de la résistance physique, nerveuse semble-t-il. D'abord, il est l'auteur, le principal responsable de la constitution du Conseil français du culte musulman. Je l'ai souvent redit, deux erreurs en quatre mots. Parce que ce conseil n'est pas essentiellement français, puisqu'il est formé par des organisations sous obédience étrangère. Je ne vais pas y revenir, l'UOIF, la FNMF, etc. Du culte musulman, parce que je le rappelle au sens où nous l'entendons, il n'y a pas de culte dans l'islam sunnite en tout cas. Bon, ça serait un débat, mais enfin, je crois qu'il était très grave, comme l'avait dit, j'étais pas toujours d'accord avec lui, le cardinal Lustiger, de faire de l'islam une religion d'État. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Et quand je vois la constitution maintenant du CRAN, le conseil représentatif des associations noires, mais où va-t-on ? On est en train, donc là, d'ethniciser le pays, on est en train de mettre à bas un édifice séculaire que construit non sans difficulté. Alors, donc, je suis fondamentalement, sur bien des plans, en désaccord avec Sarkozy. De même, sur la discrimination positive. Là, la GRIF a réagi avec son avocat Valrand Saint-Just. Valrand de Saint-Just a donc intenté les procès que nous avions décidés contre l'Institut Montaigne, parce que la notion de discrimination positive nous paraît violer les lois fondamentales de ce pays, parce qu'en plus cela est injurieux pour ces jeunes que je côtoie, moi, parce qu'il y en a vraiment de toutes origines qui n'ont pas besoin au fond de ce coup de pouce institutionnel qui me paraît au fond mu par une sorte de racisme inconscient. Voilà, donc avec Sarkozy, d'accord sur ces plans-là, ça ne veut pas dire que ensuite je ne suis pas, c'est pas parce que Sarkozy fait quelque chose qu'obligatoirement c'est mauvais. Je n'ai pas encore analysé ce qu'il a proposé dans le Figaro aujourd'hui sur la question de l'enseignement. Ça ne me semble pas absolument idiot, hein, parce que je crois que introduire dans l'enseignement, nous voulons autre chose, hein, nous voulons véritablement séparer l'école de l'État, séparer l'école de la maçonnerie, nous voulons le chèque scolaire, mais enfin. Déjà, donner aux professeurs, au fond, responsabiliser les professeurs et les rémunérer en fonction des responsabilités qu'ils prennent, cette idée-là, je ne la combattrai pas. Vous voyez, donc, quelle que soit ma grande opposition à Sarkozy, c'est pas parce que Sarkozy dit quelque chose que je serai obligatoirement contre lui. Pour autant, j'ai dit que je ne parlerai pas des présidentielles, mais je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy, ni au premier, ni au second tour, probablement.
Eh bien oui, parce qu'il faudrait encore qu'il y arrive. Je crois que vous avez donc évoqué dans votre liste de points fondamentaux avec lesquels les politiques doivent être d'accord, dans le cadre de votre Conseil national de la résistance du pays libre, vous avez évoqué 7 points. Je vois ici une question d'auditeur, un auditeur de Radio Courtoisie qui dit « D'accord avec Monsieur Anthony, mais vous n'avez pas parlé du droit du sol. » Or, cette question est la question fondamentale. Alors, je ne sais pas si c'est la seule, mais est-ce qu'elle est importante pour vous, la question du droit du sol, de la nationalité ?
Je n'ai fait, cet auditeur a raison, et je le remercie, ça me permet, je n'ai fait que dire en quelque sorte les têtes de chapitre. Et la question du droit du sol est une question effectivement fondamentale qui rentre dans le cadre de l'affirmation de la souveraineté national, hein, dont je n'ai pas pu décliner ensuite tout ce qu'il y avait sous ce chapitre-là. Je remercie cet auditeur, puisque nous considérons, nous, effectivement, que le fait de s'installer dans un pays ne donne pas le droit ensuite de diriger les destinées de ce pays. Il faut du temps pour cela. Je l'ai dit d'ailleurs dernièrement, moi je trouve drôle que Nicolas Sarkozy veuille étendre abusivement son cas particulier. Bon, de tout temps, la France a accueilli, mais dans des doses convenables, des gens qui venaient chez nous poussés par la faim, la persécution. Mais il faut voir aussi, ils venaient souvent de pays européens, de pays de même fond culturel et religieux. Et puis les choses ne doivent pas se faire comme cela, avec cette volonté que justement Sarkozy met abusivement à l'avant, de donner le droit de vote aux immigrés, par exemple pour les élections municipales. Là, non, parce que je suis bien persuadé qu'il y a, hélas, beaucoup d'immigrés qui relèvent d'une autre culture qu'ils ne veulent pas abandonner, d'autres mœurs, d'autres civilisations, et c'est là que j'ai, comme me pardonne de le rappeler, dès 1976, je n'avais attendu personne, j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Le génocide français », dans lequel je disais que la France était menacée par un véritable génocide. Ce génocide, c'était un génocide spirituel, un génocide intellectuel, culturel, moral, et enfin un génocide physique par le jeu conjugué de l'avortement et de l'immigration. Je n'ai jamais changé depuis, et je ne me bats qu'avec des gens qui combattent le génocide français, parce que coûte que coûte, il faut sauver ce peuple. Et donc, merci à cet auditeur de m'avoir permis de dire évidemment ce que je pense du droit du sol et du droit du sang.
Alors, il semble que dans la première partie de l'émission, Bernard Anthony, on vous ait prêté des propos, puisque plusieurs auditeurs nous font remonter des questions concernant l'affaire Charlie Hebdo, donc l'affaire des caricatures. On nous dit, Bernard Anthony va servir la soupe à Charlie Hebdo parce qu'il nous demande d'aller manifester devant l'ambassade du Danemark pour soutenir Charlie Hebdo. Alors Bernard, pouvez-vous répondre?
C'est extravagant. Je réponds, je rassure ses auditeurs. Hier encore, j'ai pris, tant mieux, je regarde rarement la télévision tellement j'aime mes livres, mais hier au soir, j'ai pris Arte. Et à Arte, j'ai vu Monsieur Cohn-Bendit, qui est d'ailleurs le deus ex machina de cette chaîne, et j'ai vu Monsieur Val de Charlie Hebdo, qui faisait d'ailleurs allusion à la griffe sans citer, et qui évoque tous les procès que j'ai fait à Charlie Hebdo. Donc c'est moi qui ai fait tous ces procès-là. Et c'est dire que, bien entendu, j'ai pris sur la question des injures à Mahomet une position très claire, qu'on peut visiter sur le site de la griffe, parce que je ne vais pas la lire ici, ça serait fastidieux.
Oh, peut-être, Bernard, pouvez-vous au moins nous donner l'esprit de votre réponse.
Oui, et ça éclairera ensuite la question de cette manifestation. Alors, pour les auditeurs en question, quelle est notre position? Parce que nous en avons débattu entre amis au comité directeur de la griffe, mais voici, je ne vais pas tout lire, mais c'est sous forme de tract, et on peut le prendre dès demain au 70 boulevard Saint-Germain. Alors, ça s'appelle injure à Mahomet, point d'interrogation, considération pour voir la réalité en face et savoir raison garder. J'ai rappelé, premièrement, que en tant que chrétien, nous sommes opposés à tout procédé de dérision, à toute insulte, à tout mépris à l'égard des personnes et des symboles sacrés des autres religions. Conscient que ce n'est pas ainsi qu'on peut leur faire découvrir l'amour et la charité du Christ. Et j'ai noté que les caricaturistes de Mahomet n'avaient certainement pas ce souci. Mais l'immense déferlement de l'indignation islamique, les approbations qu'il rencontre, les amalgames, les haines, les violences qu'il suscite, je le dis tout de suite, sont inacceptables. Alors, d'un côté, ne pas injurier les musulmans, bien sûr, mais ensuite, donc, qu'ils réagissent, que l'islam réagisse, et là, on voit tout ce dont je parle dans mon livre, la question de l'oumma, les querelles qu'il peut y avoir dans l'islam s'estompent, ensuite, les fatwas, les menaces, nos ambassades, zones qui sont incendiées. Alors cela est inadmissible. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans cette affaire-là, c'est aussi la promptitude de certains à venir défendre l'honneur du prophète, en quelque sorte, si je puis dire, alors qu'il n'avait rien fait pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur du Christ. Et alors, je rappelle ici que moi, et je n'oublie pas, j'en viens à la manifestation ensuite, pour l'honneur du Christ, lorsque le journal Libération, a publié le dessin de William, ce dessin ignoble du Christ revêtu, si je puis dire, d'un seul préservatif, nous sommes allés devant les tribunaux. Nous n'avons pas incendié Libération. Je n'ai pas appelé à tuer M. Serge Julie. Nous sommes allés devant la 17e chambre. Nous avons été scandaleusement déboutés, je dois le dire. Nous allons en appel.
Bernard, c'est important parce que cette affaire, en fait, est très peu connue du grand public.
Mais j'y reviendrai après, là, si vous permettez, Cécile. Parce que nous sommes donc qu'un appel. Et j'ai été choqué, je dois le dire. Je dirais du bien tout à l'heure de notre évêque, par le cardinal Barbarin de Lyon, qui a dit, mais nous, si on nous injuriait, catholiques, on réagirait de même. Mais enfin, je rêve.
Justement, c'était ma question, Bernard. Lorsque la Griffe a attaqué Libération pour cette caricature scandaleuse du Christ, est-ce que vous avez eu des soutiens des évêques de France?
Non, je n'ai eu le soutien. Nous n'avons eu le soutien d'aucun évêque de France. Et ça a été pareil dans des dizaines d'autres affaires. Alors, j'en viens au fond ensuite. Tout de même, pour nous, chrétiens, le Christ est Dieu. Mahomet n'est qu'un homme. Et cet homme-là, bon, que les musulmans soient choqués, je veux bien comprendre, mais enfin, la représentation du prophète, d'ailleurs, je tiens à dire que elle est interdite dans l'islam pour ne pas que l'image devienne idole. Je pense quand même pas que les foules musulmanes allaient se mettre à adorer les images des territoires caricaturiste danois. Et puis ensuite, je dois dire que ces images ne m'indignent tout de même pas, parce que la vie du prophète, je la connais, et je la connais, comme vous, Cécile, dans la littérature musulmane, c'est-à-dire dans la Sira, la vie du prophète, dans les hadiths. Le prophète Mahomet, c'est celui qui ordonnance l'égorgement des 900 hommes de la tribu des Banu Qurayshites. C'est donc quand même un guerrier assassin égorgeur qui ensuite donc s'empare de la jolie fille dont on vient d'égorger le mari, les frères et son père, le rabbin. Et il l'entraîne, il a même pas le temps d'arriver chez lui pour la connaître d'une manière biblique. Alors, moi je considère beaucoup je considère la foi des musulmans souvent, mais enfin, leur prophète, ce n'est qu'un homme. Et c'est un homme qui n'est quand même pas un modèle que je sache. Et la grande historienne israélienne, on m'accusera peut-être d'être américano-sioniste, comme Serge de Beketch, bon, ça fait rire tout le monde, mais je prends une historienne israélienne. Elle fait référence, et Badiéor, elle dit, moi je suis juive, mais quand les chrétiens se mettent à égorger, ils n'imitent pas Jésus-Christ. Bon, alors que le prophète Mahomet, tout de même, c'est ce personnage. Cela dit, je ne soutiens pas du tout Charlie Hebdo, parce que j'ai écouté hier M. Val, le directeur de cet ignoble torchon de Charlie Hebdo, et là je pèse mes mots avec passion, qui disait hier, on doit pouvoir tout dire, sauf, disait-il, sur le révisionnisme. C'est quand même curieux, parce que où l'on peut tout dire, et à ce moment-là, au lieu de réprimer, on n'a qu'à tout simplement critiquer. Pour ce qui est des révisionnistes, moi je suis pour qu'on les réfute, pas pour qu'on les persécute. Donc cela est clair. Monsieur Val, lui, il est pour les abominations les pires. Et ce que je remarque dans Charlie Hebdo, comme dans Marianne, c'est que quand ils disent liberté d'expression. En réalité, ils font un peu semblant d'être en dérision par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs, mais 95% de leur liberté est une liberté d'expression contre le catholicisme. C'est dire que je n'appelle à aucune manifestation pour défendre Charlie Hebdo, qui m'a tant diffamé. Si j'appelle à une manifestation un jour, ça sera évidemment contre le journal d'expression qu'est Charlie Hebdo. Alors, je je regrette peut-être d'ailleurs, après-demain je ne suis pas là. Ah bon, alors donc on peut pas me reprocher d'aller manifester pour Charlie Hebdo, mais encore une fois, partout où je passe, c'est contre Charlie Hebdo que je m'élève, et contre Monsieur Vial avec Monsieur Cohn-Bendit hier au soir. Je ne suis donc pas pour cette liberté d'expression de Tartuffe, hein, dont ne disent jamais rien contre les abominations contre notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle là en catholique, je parle en chrétien. Alors, si tel est le sens de la manifestation, vous savez ce qui s'est passé, mais je pense que ces organisateurs n'en sont pas là. Ils m'ont demandé si j'appuyais. J'ai dit oui, j'appuie, mais j'appuie volontiers souvent des manifestations qui me semblent bien orientées. Mais au départ, on m'a présenté cette manifestation. J'espère qu'elle sera comme cela, comme une manifestation contre la violence islamique. Et alors, j'espère que ça sera cela, mais si elle devait être détournée dans une manifestation, en quelque sorte pour Charlie Hebdo ou la presse racaille du même style, cela ne correspondrait pas à ma pensée.
Et on pourrait ajouter que vous qui présidez la GRIF, vous n'êtes absolument pas partisan de l'atteinte au respect des croyances. Ah, c'est-à-dire, les musulmans se sont sentis, je crois, blessés aussi beaucoup parce qu'ils ont été montés. On a provoqué leur sentiment de haine sur des choses qui n'étaient pas exactes.
Je tiens à le dire, ce qui me paraît d'ailleurs triste pour les musulmans, c'est que l'immense vague de violence qui a été soulevée fait qu'ils ressemblent beaucoup à leur caricature. Hein. Je pense que là, certains d'entre eux d'ailleurs en sont parfaitement conscients et regrettent ces choses-là. Quant à moi, je dois le dire, par exemple, quand je vois ces photos, parce que je suis nourri de ce qu'on peut avoir, parce que je suis obligé de m'informer sur les sites internet, quand je vois à Londres « Be prepared for the real Holocaust », soyez prêts pour le véritable holocauste. Mais bon, je rêve. Donc
oui, l'outrance est bien là, on est bien d'accord.
Donc il y a là toute une outrance qui va beaucoup plus loin que les caricatures de mauvais goût en question. Oui. Alors, ma position, elle est donc très simple. Ce que je constate, c'est que on a instrumentalisé aussi certainement ces caricatures avec... Et j'en ai une preuve. J'en ai une preuve de Bigourdan.
Ah, c'est l'histoire du cochon de tri sur Vaïse.
Elle est absolument incroyable.
On en parlait avant, c'est très drôle.
Il existe dans ma Bigorre natale, cela s'entend, je ne renie pas mes origines tarbaises et lourdaises, je m'en enorgueillis avec humilité, parce que le fait d'être un second petit cousin de Sainte Bernadette implique bon, effectivement un peu d'humilité par rapport à cette grande sainte. Mais enfin, dans ma Bigorre, il n'y a pas que Lourdes, il y a un petit village où il y a une fête d'un goût d'ailleurs, bon, qui n'est pas... Allons, c'est la fête, le grand concours d'imitateurs de cris du cochon. Il y a des formes d'art quand même beaucoup plus développées. Et vous voyez, je fais pas du racisme anti-bigourdan, j'en suis, mais enfin. Alors, chaque année, il y a donc comme cela, de bravoure, qui imite le cri du cochon, et ensuite, c'est tout le culte du cochon, c'est l'appel du cochon, de cochon, comme disait Serge de Bettech tout à l'heure, après Jacques Chirac. J'en sais rien, ils sont peut-être confiés ensuite, sûrement pas en dévotion. En tout cas, la Nouvelle République des Pyrénées a publié la photo du vainqueur du concours du cri du cochon. Alors ce vainqueur est barbu et il a évidemment un masque de cochon. Et cela a été utilisé juste dans les pays d'Orient pour dire que l'on avait comme cela travesti le prophète, on avait montré le prophète avec un masque de cochon. C'est dire, c'est incroyable. Donc, mais après tout, on ne connaît que cela dans notre univers de désinformation. Donc, on a excité les masses musulmanes. Pour autant, ça ne justifie rien. Et ce qui s'est passé à Beyrouth, donc, est tout à fait inadmissible. Et évidemment, vous le pensez bien, je pensais aux chrétiens du Liban. Et ce qui se passe au Nigeria est encore plus grave.
Justement, Bernard, pourriez-vous nous dire un mot sur ce qui s'est passé au Nigeria ?
Oui, et je regrette au demeurant, voyez-vous, parce que j'ai ce handicap de n'être pas parisien, parce que si j'ai une manifestation organisée, et j'attends les nouvelles du Nigeria, ça sera devant l'ambassade du Nigeria. Hein, parce que au Nigeria, quand même, les foules nigériennes ne lisent pas de la presse danoise, elles ne lisent pas les cochonneries de Charlie Hebdo. Hein, donc là, elles ont été excitées, évidemment, contre les chrétiens. Alors, ce qui s'y passe, il faudrait avoir des informations que je n'ai pas. J'essaie d'en obtenir. Ce sont des églises incendiées, comme il y en a partout des églises incendiées. Alors, je rêve quand je vois un journal comme Marianne, dans lequel on titre les incroyants martyrs d'aujourd'hui. Après, dans le monde entier, ils sont bâillonnés, niés, opprimés et même massacrés. Mais non, Marianne, pas sérieux. Enfin, les incroyants martyrs d'aujourd'hui, je rappelle qu'au XXe siècle, il y a eu donc des centaines de millions de croyants chrétiens essentiellement, qui sont morts. Ils sont morts à Auschwitz aussi, on les oublie. 2500 prêtres polonais sont morts en déportation. Il n'y a pas eu que le père Kolb au demeurant. Et puis il y a eu les 100 millions de chrétiens de partout, les orthodoxes, les catholiques, protestants, morts dans les goulags. Alors ça n'est pas sérieux, non? Là, ce que nous avons connu au XXe siècle, c'est le massacre des chrétiens. Et je dois le dire, le massacre des chrétiens par l'islam aussi, parce que j'ai été très heureux qu'on reconnaisse, je l'ai dit le mois dernier ici même à cette radio, qu'enfin le Conseil de l'Europe reconnaisse quand même qu'il y avait eu génocide par le communisme. Mais enfin, j'ai écrit un autre petit livre, on le trouve aussi à Godefroy de Bouillon, le génocide des chrétiens d'Orient. Hein. N'oublions pas ici le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens complètement occultés. Alors là, ce titre-là de Marianne, c'est profondément scandaleux. Parce que moi, ce que je sais, c'est donc le 1,5 million d'Arméniens tués dans les pires conditions, les 600 000 Assyro-Chaldéens, et je pourrais continuer longtemps.
Et n'oublions pas que les chrétiens d'Orient, aujourd'hui, sont en première ligne dans l'affaire des caricatures, puisque les musulmans qui sont excités et que l'on provoque à l'action, comme on le sait, considèrent les auteurs des caricatures comme des chrétiens. Ils considèrent l'Occident comme chrétien. Et ceux qui payent, souvent, ce sont les chrétiens en première ligne.
Et c'est en cela que je trouve que ces caricatures étaient inutiles. Je n'en fais pas un plat. Encore une fois, pour moi, elles sont moins éloignées de la réalité du prophète que les abominations qui visent le Christ. Mais je pense que elles sont utilisées aujourd'hui, en tout cas, pour, comment dirais-je, exciter à la haine antichrétienne. Et j'attendrai quand même du cher Dalil Boubaker et des autres responsables des organisations musulmanes de France qu'ils disent aussi, eux qui exigent toujours toutes les considérations pour eux, qu'ils disent leur indignation quand les chrétiens sont massacrés de par le monde. Eh ben, je n'ai jamais eu de communiqué, je n'ai jamais vu cela.
Alors, un auditeur vous pose une question, Bernard, et il dit... Quand vous avez fait un procès à Charlie Hebdo, vous avez dit qu'aucun évêque ne vous avait soutenu. Alors il vous pose cette question, que faites-vous encore dans cette église-là ?
Oh, c'est une question ingénue, mais après tout, cette église-là, j'ai parlé des évêques français qui, effectivement, ne sont pas montés au créneau, Monseigneur Barbarin, ne vous en déplaise, lorsque le journal Libération, surtout, parce que ça, c'est le pire. Charlie Hebdo, on sait, c'est de l'égout. C'est pas si grave. Libération, ça veut un journal d'intelligentsia. C'est le journal financé par les Rothschild. C'est le journal donc de l'intellocratie. Et ce journal-là, lorsqu'il y a le Christ comme ça, revêtu d'un préservatif, on sait ce que l'on fait. Et là, effectivement, nous n'avons pas eu le soutien d'un seul évêque. Peut-être, tous n'ont-ils pas lu Libération. Mais enfin, ils ont des services de presse, ils sont informés, et je sais pas pertinemment, qu'ils ont préféré, comme dans beaucoup d'autres affaires, Santa Susana à Montpellier, etc. Mais ça n'est pas pour autant. Les évêques sont des hommes, ils ont leurs faiblesses, ils peuvent avoir certains d'entre eux de leur lâcheté. Je salue aujourd'hui les évêques qui réagissent, parce qu'il y a, il y en a. Je salue la réaction intelligente, vigoureuse, vive aujourd'hui de l'évêque de Vannes, Monseigneur Santaine, contre la vague de destruction antichrétienne en Bretagne. Alors, je me sens de cette église-là, malgré ses évêques, quelquefois décevants, mais je dois le dire, et puis après tout, cette église-là, c'est moi, je suis un humble fidèle, comme vous, voilà, mais cette église, c'est nous, et des centaines de millions d'autres. Et surtout, cette église-là, elle est celle des persécutés du Liban, du Nigeria, de l'Arménie. Alors, même s'il y a des évêques oublieux des chrétiens persécutés, je ne voudrais surtout pas abandonner cette église et abandonner les persécutés de cette église.
Alors, un autre auditeur, Bernard, nous dit que hier matin sur RMC, un sondage était proposé sur le sujet suivant. Y a-t-il un racisme anti-blanc ? Et la réponse a été oui à 80%. Pouvez-vous commenter cette information ?
Écoutez, moi je n'ai pas d'institut de sondage, mais il est évident qu'il y a un racisme anti-blanc, de même qu'il y a pu y avoir du racisme anti-noir, et c'est pour cela d'ailleurs que je ne comprends pas que la loi, en quelque sorte, ajoute de la sanction aggravée au racisme. Le racisme est aussi grave quand il est anti-blanc que quand il est anti-noir. Il est aussi grave quand il est anti-arménien que quand il est anti-juif, que je sache. Hein. Donc, cette information, bien sûr, on l'avait vu lors d'émeutes que tout de même avait été mise en avant dans toute la presse. Je me souviens des articles du journal Le Monde qui disait, donc à propos non pas des émeutes des banlieues d'il y a quelques semaines, mais il y a quelques mois, c'était des émeutes à l'occasion des manifestations lycéennes, où l'on avait vu de véritables ratonnades anti-blancs. C'était dans Marianne, d'ailleurs, vous voyez que je lis la presse adverse pour y répliquer, ou pour quand même prendre ce qu'ils disent comme information. C'était surtout dans Le Monde, hein, pleine page sur le racisme anti-blanc. Et lorsque moi-même j'ai réchappé dans le métro donc à un véritable attentat, c'est mon ange gardien qui m'a protégé, ce n'était pas Bernard Antony que l'on visait, hein. Lorsqu'une bande, un soir de fête de la musique, je l'avais raconté ici, je rentrais de chez Serge de Bekech, gare du Nord, hein, lorsque j'ai vu donc une racaille déferler hurlant mort aux Gaulois, mort aux Blancs, eh ben, j'ai eu un coup d'adrénaline, hein, et bon, enlevé mes lunettes, enlevé ma veste, et dans un sursaut, j'ai pu faire un roulé-boulé. Donc, c'était à Châtelet-Léal pour leur échapper, à moitié aveugle, parce que sans mes lunettes, c'est tragique. Le racisme anti-blanc, je l'ai vu. Et donc, c'est pour cela, mais de quel droit aussi on aurait des complexes. Moi, je suis fier de ma race blanche. Quand je m'entends dire par une bande de noirs morts aux Blancs, moi, je leur dis, je dis que ces gens-là doivent être mis en cabane, parce que ça peut être des tueurs, comme ceux qui ont tué le jeune juif. Parce que moi, la police m'a dit ensuite, si vous avez pris avec votre carte du Front National, ensuite ils vous auraient torturé. Bon, et j'en profite pour dire au passage que je suis pour l'application de la peine de mort à cet Ivoirien, mais j'espère qu'il va y avoir encore des soldats français pas découragés, il faut que l'on il faut, pardon, on me montre avec raison donc un petit panneau pour dire que nous sommes la libre radio du pays réel. Vous écoutez Radio Courtoisie, sur internet tv-radio.com. Et je voudrais les autres mentions, parce que je veux bien identifier Radio Courtoisie, mais je pense que les auditeurs le savent, oui, et je suis dans le cadre...
Oui, oui, c'est pour rappeler que Radio Courtoisie ne vit que par les dons de ses auditeurs, et que donc il faut, bien entendu, chers auditeurs, penser à payer votre cotisation.
Si je peux rajouter un mot, je dois dire combien j'éprouve moi qui, de ma province, ne peux pas avoir accès à Radio Courtoisie si facilement, sinon par Internet, ça y est, combien Radio Courtoisie nous manque. Et si je puis ajouter cela, je dois dire que cette œuvre de Jean Ferré est une œuvre admirable pour la liberté de l'esprit français. Et Serge de Becquetch invitant, comme il le fait avec son extraordinaire sens de l'accueil, fait un travail admirable pour le maintien de notre civilisation française. Vous voyez, je fais mieux qu'identifier Radio Courtoisie, c'est de dire de payer deux fois plutôt qu'une.
Bernard Anthony, vous êtes donc ici sur Radio Courtoisie pour parler de vous, mais pour parler aussi de la griffe et du travail qu'elle fait, que fait l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Dans le contexte des caricatures, il faut dire que l'œuvre que vous faites là et que vous faites depuis longtemps est importante et je voudrais que vous nous parliez un petit peu des procès en cours. Il y a, je crois, une action de la griffe dans l'affaire du train d'enfer, le fameux Nice-Lyon du 1er janvier où il y avait eu des attaques racistes, comme l'avait révélé Le Monde.
Oui, mais je voudrais dire que la griffe a le soutien de Radio Courtoisie, non seulement de cette émission, d'autres, et je tiens à remercier, mais je tiens à dire aussi que le rôle extraordinaire joué par le quotidien présent, Jeanne, je tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que la riposte quotidienne, souvent motivée, argumentée par des journalistes qui savent mettre en avant les raisons judiciaires, juridiques, ça, c'est dans présent chaque jour. Et que autant il me paraît bon d'adhérer à Radio Courtoisie, autant l'abonnement au journal présent, pour moi, c'est une chose vitale, parce que un quotidien, ça n'est pas facile non plus à créer. Et si j'ai un appel à lancer, c'est que pour que vous vous abonniez à présent, que l'invendu ou le journal qui vous reste, vous ne le mettiez pas à la poubelle. Présent joue un rôle très grand. Alors, pour ce qui est de la griffe, en effet, l'affaire Train d'enfer. J'ai donné ce nom, d'ailleurs, à l'affaire du train de Nice à Marseille, en souvenir d'un film tout à fait scandaleux, qui est le film Train d'enfer de Roger Hanin, qui instrumentalisait le meurtre d'un malheureux par des gens qui n'avaient rien à voir avec le Front National. Ce film de Roger Hanin, Train d'enfer, était un film de pure désinformation. Alors, il y a eu véritablement encore un train d'enfer et nous avons obtenu les informations selon lesquelles il s'était bien agi de racisme anti-français, de racisme anti-blanc, il faut le dire, et donc la griffe là, je demandais à son avocat régional, qui est maître Sylvain Navio, de se constituer partie civile. Cela est fait. Nous sommes dans cette affaire comme nous sommes dans des nombreuses affaires de destruction d'églises. Alors, on ne peut pas tout traiter. Ça, c'est terrible aussi. La griffe n'a pas beaucoup d'argent et je reçois des courriers en disant « Vous n'avez pas agi dans telle ou telle affaire ». Mais c'est vrai, pour la bonne raison, c'est que quand on a un fusil avec 7 cartouches, on ne peut pas en tirer 40. Hein. Mais en l'occurrence, dans l'affaire de Train d'enfer qui est très grave, nous agissons, nous sommes partie civile et nous tiendrons nos adhérents, nos abonnés et nos amis auditeurs de Radio Courtoisie au courant.
Alors vous êtes également la griffe partie civile dans l'affaire de l'incendie criminel de l'église de Romans-sur-Isère. Là c'était une profanation, vous êtes impliqué dans ce dossier, ce qui est très bien et allez-vous l'être, demandent plusieurs auditeurs, dans l'affaire du lynchage d'un gendarme dans les dom-toms. Dans une affaire de racisme anti-blanc.
Oui, alors là se pose pour nous une grande difficulté. Je réponds à ces auditeurs en toute simplicité. Nous sommes un petit mouvement. Nous ne sommes pas subventionnés par les collectivités territoriales, par les conseils municipaux. Dans les dom-toms, nous sommes présents à l'île de la Réunion, où je suis allé à 2 reprises. Nous ne sommes pas les îles des Caraïbes, ce que je regrette. Alors, pour faire cela, voyez-vous, cela nécessiterait quand même beaucoup de frais. Nous n'avons pas d'avocat sur place, mais je le verse, cet auditeur a raison, parce que je le verse demain dans notre séance de travail avec Valérand de Saint-Just et Hélène Sabatier. Je rappelle ici la griffe, 70 boulevard Saint-Germain, 01 40 46 96 31. et son site internet, excellemment modelé par Cécile Montmirail, www.agriff.fr.
Je crois, Bernard, qu'il est aussi important de signaler à nos auditeurs qu'effectivement, la GRIF, ne pouvant pas se battre sur toutes les affaires qui lui seront montées et qui sont très importantes, a lancé, ou lance plus exactement, un observatoire des agressions antichrétiennes et antifrançaises en 2006. Il s'agit donc pour la GRIF de faire la recension de toutes ces agressions pour publier des chiffres, pour suivre la progression de ces agressions et pour demander une fois par an au moins à l'État français de prendre les mesures qui s'imposent pour que ces agressions cessent. Et donc je tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que beaucoup, nous avons une grande difficulté à la GRIF pour obtenir ces informations. En effet, les autres mouvements antiracistes ont des indicateurs dans des endroits qui permettent de connaître ces agressions et ils sont immédiatement saisis et pour qu'ils puissent réagir. Ça n'est pas le cas de la GRIF, ceci est scandaleux, mais c'est ainsi. Et donc nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les personnes qui, dans la France entière, lisent la presse et relèvent des incendies de chapelles, des incendies de crèches. Ça a été le cas, par exemple, dans le Var au moment de Noël, puisque en Provence, il y a beaucoup il y a des crèches dans toutes les églises. Des crèches ont été brûlées, au cours de Noël 2005. Donc toutes ces affaires-là nous intéressent. Merci donc de découper dans les journaux les articles qui font mention de ces agressions antichrétiennes et antifrançaises et de les envoyer au 70 boulevard Saint-Germain pour que nous puissions en faire la recension. Merci effectivement, Bernard, d'avoir signalé que le site de la GRIF a été entièrement remodelé. Il est depuis donc le 1er février en ligne. Vous pouvez donc suivre à la fois la réplique que la GRIF fait à toutes ces agressions anti-françaises et anti-chrétiennes dans des communiqués qui sont mis en ligne très régulièrement. Vous pouvez aussi trouver sur le site de la GRIF toutes les affaires en cours avec un petit résumé de nos avocats qui permettent à chacun de savoir quelles sont les affaires en cours et où on en est. Il est très important de faire connaître ce site, surtout dans les jeunes générations qui ont l'habitude de surfer sur le net. Donc le site a aussi un onglet qui parle de l'observatoire de ces agressions antichrétiennes et antifrançaises et donc tout un chacun peut déposer en ligne des signalements et donc nous aider dans ce combat, car chacun peut participer à ce combat de la GRIF de recension de ces agressions pour que nous puissions nous aussi faire un bilan et protester officiellement auprès des autorités françaises.
Merci Cécile Montmirail. Je voudrais dire que tout cela va être évoqué lors du grand dîner de la GRIF qui aura lieu le 13 mai, ça se retient bien. Hein, le samedi 13 mai, ça sera le grand dîner de la GRIF. Nous invitons le Premier ministre, nous invitons le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, j'espère qu'ils viendront, nous inviterons l'épiscopat, le grand rabbin, après tout, le dîner du Trif fait cela, et j'espère que ces autorités accorderont autant d'attention donc au dîner de la GRIF qu'au dîner du Trif. Cela dit, nous inviterons aussi, bien sûr, naturellement, les autorités du Front National, du MPF, de l'Action française, qui peut-être viendront plus que le Premier ministre. Nous n'avons pas beaucoup d'illusions, mais il sera invité parce que nous avons beaucoup de choses à leur dire, et ce sera justement notre inquiétude sur le racisme que nous avons dénoncé inlassablement et qui continue de progresser dans notre pays. Jeanne, d'ailleurs, je souhaiterais que vous nous disiez un peu un mot, vous qui êtes souvent en Bretagne, donc ce qui s'est passé en Bretagne sur les chapelles du Morbihan.
Ces dernières semaines, oui, j'ai eu la chance d'être de temps en temps en Bretagne et la Bretagne a été frappée par une petite épidémie de profanation extrêmement violente qui ont frappé des chapelles, des églises et notamment une petite chapelle ravissante qui venait d'être entièrement reconstruite, refaite, restaurée avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'énergie et qui a été brûlée. Mais alors, je pense que vous avez peut-être vu les images de la télévision, mais ça ça n'a pas fait des manifs, ça n'a pas de provoqué une déflagration dans le monde entier. Vous vous êtes aperçu de cela aussi. Mais en revanche, il y a eu une cérémonie de réparation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'évêque de Vannes, Monseigneur Santaine, est intervenu. Et je voudrais vous dire que dans présent de vendredi, vous pourrez découvrir quelques-unes de ces déclarations qui me semblent importantes, parce que Monseigneur Santaine, le nouvel évêque de Vannes, a voulu replacer cette affaire lamentable dans son contexte. On a accusé des sectes satanistes. Il a dit on n'en sait rien. Pour le moment, c'était peut-être des adolescents complètement déboussolés. On va voir. Mais en tout cas, ce qu'il a dit est important. Il a appelé, en fait, à la reconquête spirituelle de ce pays. Il a dit que l'église qui était atteinte, ce n'était pas seulement cette petite chapelle, mais bien l'église, la grande église qu'il faut rebâtir. Et voilà, c'est ce que vous allez découvrir dans présent vendredi. C'est ce que dit Monseigneur Santaine. Il l'a dit devant les centaines de personnes, de paroissiens qui étaient là pour pleurer cette destruction. Il leur a dit, si nous n'apprenons pas aux jeunes à se comporter en héritiers, ils se comporteront en barbares. Et nous ne pourrons pas le leur reprocher. Nous ne pourrons même pas nous en étonner. Eh bien ça, je crois, Bernard, je crois que présent, je crois que la Griffe, je crois que Chrétienté Solidarité et beaucoup d'autres, que le Centre Charlier veulent absolument participer à cette réforme intellectuelle et morale. Elle est primordiale, parce que sans elle, il n'y aura pas seulement des petits barbares dans les banlieues, des petits déracinés, mais ce sont tous les petits Français qui sont déracinés et qui vont l'être.
Et vous voyez, Jeanne, je suis heureux de ce témoignage, parce que tout à l'heure, j'avais un peu de peine, quand cet auditeur nous a posé la question sur cette église, mais c'est le signe que cette église reverdit sans cesse. C'est l'église de l'espérance. Alors, quelquefois, nous sommes tristes de noter les déviations de certains évêques, inattendus. C'était de la collaboration de pans entiers de l'église avec le marxisme, comme le reconnaissait le cardinal de Courtrai lui-même dans un bel aveu. Mais aujourd'hui, vous voyez, bon, tout à l'heure, j'évoquais le propos du cardinal Barbarin qui m'avait affligé, mais quand un évêque comme celui de Vannes dit ces choses-là, eh bien, je crois que nous devons de le relever aussi, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de renouveau aujourd'hui dans le catholicisme en France. Je voudrais dire aussi que Monseigneur Santaine a fait l'allusion à quelque chose qui se développe, que nous n'avons pas toujours traité dans ce dont nous sommes responsables, mais qui participe de la maladie de notre société aussi. C'est-à-dire ce qu'on appelle le satanisme ou le gothisme. Nous avions vu cela dans l'affaire de Toulon, hein, donc des affaires extrêmement graves, dans le meurtre du prêtre de Colmar, où nous avons été aussi en assise. Là, il s'agissait de véritables meurtres inspirés par la haine antichrétienne. Et je dois dire que quand certains, à juste titre, disent quelquefois « mais il y a de la dérision qui peut nous ramener aux heures les plus noires de notre histoire s'il s'agit de la moindre dérision anti-juive », mais la dérision anti-chrétienne, ou toute la campagne qui est menée actuellement par Charlie Hebdo, par Marianne, etc., mais ça excite à la haine anti-chrétienne. Alors il y a une haine anti-chrétienne islamique, mais je dois dire aussi qu'il y a une haine anti-chrétienne donc qui est celle, non pas d'un vieil anticléricalisme qu'on peut comprendre, mais réellement d'une obsession donc qui se diffuse à longueur d'année. Et là, je dois dire qu'il y a des caricaturistes qui, eux, évidemment, semblent ne pouvoir subir aucune réaction, ni devant les tribunaux, ni de par la foule, ce que nous ne souhaiterions pas. Mais voilà pourquoi nous continuerons devant les tribunaux à attaquer les ignominies de Charlie Hebdo.
Effectivement, Bernard, nous assistons à un effondrement, et je crois que nous avons lu, puisque nous sommes quand même dans l'émission de la réplique, hier dans le journal, que la droite allait renforcer le Pax. Alors, je me tourne vers vous, Jeanne. Donc, c'est un sujet que vous avez beaucoup étudié. Est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur cette information qui est pour le moins étonnante.
Alors, pas si étonnante que ça, je crois, Cécile Montmirail, je l'ai traité dans Présent d'hier, la droite, UMP, majoritairement, a demandé que la loi sur la famille soit modifiée. Et c'est à la faveur de la réforme des retraites que le gouvernement, donc le gouvernement UMP, a demandé que le droit du PACS soit refondu. Alors, ça n'a rien à voir avec les retraites, avec les successions, enfin, marginalement, mais dans l'ensemble, il s'agit véritablement d'un rapprochement du PACS avec le mariage, et on peut dire que là, c'est la technique du détricotage qui est chère à la droite. Hein. C'est on abandonne par petits bouts, par petits pas, le respect du droit naturel, et puis on aboutit à faire la même chose que la gauche. Et là, la droite, complètement traumatisée, je crois, par ce qu'on lui a balancé à l'époque du vote du PACS, lorsqu'elle n'a pas voulu le voter dans un premier temps, légalisation, enfin la solennisation des unions civiles, qu'elles soient hétéro, comme disent les homos, ou homosexuels, eh bien la droite, maintenant, elle donne des gages supplémentaires. Et ces gages, ce sont les suivants. Premier, le plus important, c'est que désormais, les PACS vont être inscrits sur l'acte de naissance des intéressés. Alors, les paxés, hétéro ou homo, comme ils le voudront, verront figurer cela dans leur acte de naissance afin que tout le monde puisse être au courant de cela. Seulement, ces actes seront inscrits sans le nom du paxé. Pourquoi ? Pour respecter la vie privée des gens. Alors là, on arrive à une aberration extraordinaire. On a quelque chose qui s'assimile à un mariage, mais qui n'a absolument aucune fonction, aucune visibilité, aucune réalité sociale. Et c'est si vrai que le PACS, désormais, va pouvoir être rompu de façon beaucoup plus simple que ça n'était le cas jusqu'à présent. Il suffira d'une lettre signifiée par l'huissier et qui aura un effet immédiat. Jusqu'à présent, il y avait un petit délai. Et bien maintenant, dans le cadre d'un PACS, d'une union civile, qui intéresse non seulement les homosexuels, mais aussi les gens, j'allais dire, normaux, mais c'est un peu excessif aujourd'hui face aux lois anti-homophobes, eh bien les gens pourront rompre leur PACS comme ça du jour au lendemain sans autre forme de procès. Ils auront également de nouveaux droits en matière de logement en cas du décès de l'un des deux PACSés. Et puis il y a également de nouvelles dispositions patrimoniales. Désormais c'est la séparation de biens comme dans le mariage qui sera la règle. Jusqu'à présent c'était la communauté universelle, ça posait des problèmes en cas de rupture notamment. Vous voyez, tout dans ce droit du PACS tend à le rapprocher du mariage tout en simplifiant, en libérant, en supprimant toutes les contraintes qui sont propres au mariage. Donc nous avons là un sujet de société qui est absolument épouvantable.
Merci Jeanne, et je crois que vous développerez cela dans Présent avec, permettez-moi de vous le dire, les auditeurs comprennent notre amitié, la clarté que vous avez sur ces sujets. On vient de nous passer une information, Jeanne.
C'est un auditeur de Radio Courtoisie qui signale que la presse a annoncé vendredi que les deux satanistes arrêtés à Brest qui ont saccagé des églises ont avoué avoir agi en haine de la religion. Oui, c'est évident. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ces jeunes étaient des êtres structurés ou non, ou complètement déboussolés. Ce qui est clair, c'est que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en haine de la religion, et il en sera question, je vous le répète, dans Présent, daté de vendredi.
Oui, alors là, je dois le dire aussi, quelle que soit la commisération, la pitié que l'on peut avoir pour des misérables comme ça, des pauvres paumés, n'en demeure pas moins que cela est inacceptable, et que ce n'est pas... et que dans la Griffe va saisir son avocat. Nous allons nous constituer partie civile. Nous allons appeler Maître René Boin, qui est l'avocat de la Griffe dans cette région-là, parce que si nous ne réagissions pas dans cette affaire-là, ça serait tout de même très triste.
Alors un auditeur nous demande de préciser le site de la Griffe. Donc www.agriffe.fr.
Je peux vous dire que ça vaut la peine de visiter ce site, tout comme cela vaut la peine de visiter...
Qu'on me permette un grand éclat de rire, il paraît que le journal Minute m'accuse d'avoir inspiré un papier contre le FN dans Valeurs Actuelles. Mais j'ai inspiré l'assassinat d'Henri IV aussi. Alors je vous dois dire que ceci me paraît suffocant. Je tiens à rassurer cet auditeur. D'abord, je ne veux inspirer aucun article contre le FN. Et alors, pour ce qui est d'inspirer dans le journal Valeurs Actuelles, dans lequel je ne connais strictement personne, je dois dire que cela est un peu fort de café. Je peux peut-être inspirer un article dans présent avec l'amitié de mes amis s'ils acceptent mon inspiration, mais je verrai quel traitement je donne donc à cette information. En revanche, il y a quelque chose que j'ai oublié de traiter tout à l'heure, je voulais lui faire un clin d'œil. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui surtout, mais c'est un camarade et pour nous l'amitié c'est important. C'est l'excellent article d'Alain Sander dans présent sur Georges Frêche. Tout le monde, alors je n'ai aucune sympathie pour Monsieur Frêche. On sait très bien que c'est un jobard, c'est un ancien maoïste provocateur. Il s'appelait Georges Lière chez les Mao. Mais bon, bien sûr, il est inadmissible qu'il ait traité les articles de sous-hommes. Et là, bon, on ne va pas participer au cœur que contre lui. On a tellement hurlé contre nous qu'on n'aime pas aboyer avec les loups, surtout quand il y a assez de loups. Mais en revanche, Alain a eu raison de dire aussi combien, quelquefois, il était inconvenant, non pas pour les harkis, mais non pas pour les pieds noirs, mais pour quelques responsables d'associations de harkis ou de pieds noirs, de se faire comme ça les propagandistes souvent, ou les quémandeurs, donc auprès des hommes politiques qui avaient été donc les assassins de l'Algérie française. Alors ça, je dois dire que j'ai lu cet article avec délectation, parce que j'en ai trop vu de ceux des politiciens qui récupèrent comme cela l'électorat pied noir ou l'électorat harki, alors qu'ils étaient tout de même donc tout à fait indifférents au sort ignominieux fait donc à leurs compatriotes. Je voudrais dire, j'en profite car nous nous dirigeons vers la fin de l'émission, je sais que nous sommes écoutés en province, que j'animerai des réunions de l'AGRIF. D'abord le 10 mars à Olioul, c'est un dîner débat excellemment organisé par nos amis du VAR et donc on peut demander tout renseignement à l'AGRIF. Je serai le lendemain à Nice, le 11 mars, pour une grande journée d'amitié française et de chrétienté. Ça sera donc à la maison dite du séminaire, c'est sur la corniche, c'est magnifique. Il y aura là le docteur Larmande, maître Sylvain Navio, Daniel Lemasson, agrégé de lettres classiques sur l'école ingouvernable, Yann Bali, notre coordonnateur régional, et le beau récital de chant d'Albert Santoni, un hommage à la souffrance des pieds noirs, justement, et notre réunion se terminera avec ce récital d'Albert Santoni, avec les Africains, et la prière à Notre-Dame d'Afrique. Je serai à Lille le 24 mars. Je serai à Carcassonne le 2 avril, à Dijon le 7 avril, à Pau le 22 avril, à Montpellier le 28 avril. Mais nous informerons nos adhérents et nos amis, nous aurons probablement d'autres émissions pour redire ces choses-là. Donc, comme on me le redemande, alors je rappelle l'adresse de l'AGRIF, 70 boulevard Saint-Germain, 75005, et le point le site internet vous a été donné tout à l'heure, je le redis cependant, www.agrif.fr. Jeanne, mais vous ne dites jamais présent. Comment on peut s'abonner pour présent? On a encore
présent,
quelques
secondes.
Ah, présent,
c'est très simple. Vous écrivez ou vous téléphonez à présent. Alors, le téléphone, c'est le 01 42 97 51 30. L'adresse postale, c'est très simple aussi, 5 rue d'Amboise, 75 002 Paris. Et puis, sur Internet, vous allez sur www.présent, sans accent, donc présent.fr, et là, vous découvrez tout. Et si vous vous réclamez de moi, si vous dites j'écoutais Radio Courtoisie hier soir, mercredi soir, Je crois qu'on peut vous faire une petite fleur pour un abonnement sur Internet. Voilà.
Voilà.
Donc on sera ravis, chers auditeurs.
Je suis demain toute la journée au Centre Charlier. Alors on me dit que le premier tirage de l'Islam sans repentance s'est épuisé. Je crois qu'il en reste quelques-uns que je peux signer parce que j'ai beaucoup de visiteurs. Mais qu'on se rassure, le Richard Haddad me dit que le nouveau tirage arrive. En tout cas demain, on peut venir prendre notre tract qui se distribue partout, un jour à Mahomet et qui reprend les positions que j'ai développées ici ce soir et qui avait été quelque peu déformé, me semble-t-il, mais heureusement qu'il y a Radio Courtoisie pour pouvoir répliquer et rectifier.
Et puisque nous aimons bien rire ensemble, Bernard, un petit mot de la démocratie mongole quand
même. Ah oui, parce que je n'ai pas fait de revue de presse ce soir, peut-être on fera ça les autres fois, je parle le Figaro aujourd'hui, je dis que la démocratie mongole est à la dérive. Et vous savez, ça m'attriste énormément, parce que moi je suis un grand admirateur de la démocratie mongole, dont les grands hommes s'appellent Tamerlan, Gengis Khan. Alors voilà, on reparlera une autre fois de la démocratie mongole et comme disait Vialat, voilà pourquoi Allah est grand et que l'éléphant est inénarrable.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 22 février 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Benoît.